Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Vous souhaitez devenir un pro des médias sociaux? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Épisode hors série, encore une fois, hein. Nous sommes toujours l'été, dernier jour du mois de juillet. Déjà, demain on attaque le mois d'août, que ça passe vite les vacances. Et oui, alors peut-être certains d'entre vous sont en vacances et écoutent encore cet épisode sur la plage. Certains d'entre vous ont peut-être déjà fini les vacances. Et peut-être, certains d'entre vous attendent les vacances avec impatience parce qu'elles arriveraient peut-être, allez disons, dans 2-3 jours. Hein, allez savoir, peut-être hein, êtes-vous chanceux à avoir des vacances qui arrivent très rapidement. Bref, en tout cas, nous sommes tous réunis là, ensemble, hein, pour aujourd'hui parler de social médias. Et oui, parce que c'est le métier de mon invité du jour. Et mon invité du jour, hein, contrairement aux autres fois, n'est pas un créateur indépendant, ce n'est pas un entrepreneur seul dans son coin. En fait, il est à la tête d'une agence. Alors aujourd'hui, j'ai invité Thibaut Tourviel de Labrou, directeur de l'agence Supernatif à Lyon. Alors leur métier à cette agence est de gérer la stratégie de production et de diffusion de contenu de marque sur les réseaux sociaux. De marques que vous connaissez, hein, si vous allez voir leur site, vous allez voir qu'ils parlent de chocolat, de saucisson et de salade verte aussi, de choses comme ça, avec leurs clients ou pour leurs clients, hein, il nous expliquera un petit peu ça, comment ils travaillent et quel est vraiment leur métier. Alors pourquoi je l'ai invité? Ben, tout simplement parce que l'été dernier, cette agence, hein, trois personnes de cette agence, ils ont décidé de lancer un podcast d'actualité sur le social media. Ce podcast, c'est le Super Daily qui, tous les jours, hein, du lundi au vendredi, hein, à 9h, ils enregistrent ça dans leur bureau à Lyon et nous diffusent donc l'actualité, alors sur des formats qui durent autour de 20-25 minutes. Il nous expliquera d'ailleurs, hein, que ce format n'était peut-être pas celui auquel ils avaient pensé au départ. En fait, il va nous raconter dans cet épisode de comment est né ce podcast, comment il est géré. Il va nous raconter aussi que finalement, bah, il n'avait peut-être pas réfléchi, suivi tous les conseils qu'eux-mêmes donnent à leurs clients. Par exemple, quel est le persona idéal qui va écouter leur podcast, ou peut-être qu'ils ont eu des surprises aussi. Il nous explique un petit peu les éléments techniques, hein, comment ils préparent, parce qu'ils sont trois co-animateurs, hein, à tourner à tour de rôle. Alors lui, Thibaut, est là présent quasiment tout le temps, hein, vraiment, il est là tout le temps, mais il a des co-animateurs qui viennent lui renvoyer la balle et il nous explique comment il travaille là-dessus. Et je trouve que c'est un format très intéressant, bah, tout simplement aussi parce que, comme il nous le dit, ce format de podcast, pour eux, est un moyen de faire de la veille, c'est un moyen de réfléchir aussi à leur métier, c'est aussi un moyen de structurer leurs pensées. Et il va nous expliquer notamment qu'est-ce que ça leur apporte à eux en tant que pro, professionnel, en tant qu'agence aussi, et en tant que conseil auprès de leurs clients. Et vous allez voir que c'est une expérience qui est très riche. Alors bien sûr, elle est exigeante parce que elle leur demande au total, hein, il nous a dit à peu près 3h30 de travail par jour, ce qui n'est pas négligeable, hein, si on prenait un compte analytique, hein, d'une entreprise, le temps investi. Mais en fait, il va nous donner aussi les retombées sur cette création, sur le Super Daily, où ils ont placé la barre très haut, parce qu'en mettant le Super Daily comme nom, ben, forcément, ils se sont dit, on est obligé maintenant de faire du quotidien, mais aussi ce quotidien, ce format quotidien, comme ils nous l'expliquent, leur a libéré une partie de pression, une partie de réflexion, etc. Et en ça, on se rejoint beaucoup sur l'intérêt de faire du quotidien, sur l'intérêt de publier très souvent et très régulièrement, et c'est pour ça aussi que je voulais l'inviter. L'autre raison aussi pour laquelle je les ai invités, c'est que le Super Daily, je trouve, hein, c'est un podcast qui est vraiment très intéressant si vous vous intéressez à l'actualité du social media, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur ce que font les entreprises, et c'est d'ailleurs pour ça que je cite très régulièrement leurs épisodes dans ma newsletter super fan du vendredi, alors que j'ai arrêté pendant l'été, mais qui reprendra à la rentrée, voilà, elle reprendra tranquillement à la rentrée, et souvent, je cite leurs épisodes parce qu'ils ont des épisodes qui sont très complets et très très intéressants. Mais ce qui m'intéressait aussi chez Thibaut et les Supernatifs, c'était qu'ils nous disent un petit peu finalement, c'est quoi le social media, hein, quelle est la vision quand on est une agence, quand on travaille pour d'autres entreprises, comment on gère les réseaux sociaux d'une entreprise, quelle est sa vision, quel est l'état d'esprit que doit avoir une entreprise, et est-ce que c'est facile pour une entreprise de rentrer dans l'état d'esprit des réseaux sociaux, quelle est la place de ces réseaux sociaux justement pour une entreprise. On a parlé notamment de SAV, on a parlé de discussion, on a parlé de la des fois l'écart qu'il peut y avoir entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui va se passer quand on va aller en boutique, par exemple. On a parlé par exemple de cas comme Interflora, la Poste ou la SNCF, qui sont des cas qui sont difficiles à gérer, qui des fois font parler d'eux, dont moi je trouve par exemple que le community management, notamment en ce qui concerne Interflora, j'en suis pas vraiment fan, et il m'a dit ce qu'il lui en pensait, mais aussi on en a discuté au niveau des difficultés que ça peut représenter. Et vraiment la difficulté pour une entreprise actuellement, c'est comment est-ce qu'on envisage ces réseaux sociaux, comment est-ce que finalement ils impactent la communication et la vie de l'entreprise, et comment quelque part on rentre aussi dans une phase de maturité. On s'est beaucoup amusé sur les réseaux sociaux jusqu'à maintenant, mais maintenant ils sont vraiment présents très fortement, et c'est eux qui vont venir aussi impacter directement jusqu'à la stratégie de l'entreprise. Et c'est ce que Thibaut nous explique justement sur les reportings quand ils font à leurs clients. Et des fois oui, il y a des choses qui peuvent remonter des discussions des réseaux sociaux et qui peuvent venir impacter directement la stratégie de l'entreprise. Et puis, je ne pouvais pas finir sans lui demander de prendre sa casquette, j'ai envie de dire un petit peu de recruteur, vous voyez, un petit peu de chef d'agence, de patron d'agence, et de dire lui de comment il voit le métier de ceux qui voudraient travailler dans le domaine. Est-ce que tout le monde peut venir travailler dans le domaine? Quelles sont les compétences qu'il faut pour travailler dans le social media? Alors que ce soit en agence, que ce soit, comme on dit, chez l'annonceur, donc chez les clients, dans une entreprise dans laquelle on voudrait gérer la communication sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut être jeune? Est-ce qu'il faut avoir plutôt de l'expérience, quelles sont les compétences à avoir, et finalement quelle est la vision qu'il faut avoir. Alors si vous êtes par exemple en phase de reconversion et vous dites j'aimerais bien travailler dans la communication numérique digitale d'une entreprise ou de l'entreprise dans laquelle vous êtes, parce que vous trouvez qu'il y aurait des choses à faire et qu'il n'y a pas assez de choses à faire, ou peut-être que le poste n'existe pas, et il va vous donner aussi des pistes. Et finalement on arrive à la conclusion, et moi c'est quelque chose dont je suis persuadé, que ces rôles là, ces postes là sont des postes vraiment de manager. On n'est pas sur des postes qu'on confie normalement à un stagiaire. Alors bien entendu, il faut faire un petit peu le distinguo. Par exemple, le distinguo entre qu'est-ce qu'un community manager, un content manager, un social media manager. Les postes, stratégiquement, ils ne font pas les mêmes choses, ils n'ont pas le même métier, ils n'ont pas le même rôle, ils n'ont pas la même place. Souvent, on a tendance à les mélanger un petit peu tous, pour une raison qui est toute simple, c'est que dans beaucoup d'entreprises, la même personne fait tout ça. C'est-à-dire que le community manager qui va animer la communauté et répondre aux messages, et se mue aussi en content manager qui va produire des contenus, en social media manager qui va imaginer la stratégie de la marque sur les réseaux sociaux. Mais sur des entreprises qui sont plus structurées, bien sûr, ces postes ont tendance ou sont séparés, ou en tout cas sont confiés à des personnes différentes, et des personnes qui peuvent être en interne et en externe. Et en fait, on a parlé de tout ça. Alors bien sûr, quand on est créateur de contenu indépendant, comme nous le sommes pour la plupart, ou quand nous sommes, quand ce n'est même pas notre métier, ce qui est le cas de, je pense, une bonne partie de vous qui écoutez ce podcast, forcément, on a toutes les casquettes. On s'en rend pas compte, on a toutes les casquettes. Mais peut-être que finalement, c'est aussi une carte à jouer, quand on veut postuler, quand on veut arriver dans une entreprise, quand on voudrait se faire embaucher, ou si vous êtes étudiant et que vous demandez ce que vous allez faire plus tard et que vous aimeriez bien travailler dans ce secteur-là. Je trouve que Thibaut nous a donné des bonnes pistes de réflexion sur finalement les compétences et vers quoi nous allons avec ces outils-là. Et finalement la place qu'il joue, mais aussi finalement vous allez voir qu'il va citer des mots qui ne sont pas des gros mots dans la bouche d'un quelqu'un qui gère les réseaux sociaux. C'est-à-dire que il parle aussi de newsletters, de sites internet, de contenu au sens slow, vous savez, des contenus qui sont plus longs, qui prennent plus de temps à consulter. Parce que comme il nous l'a dit, finalement Supernatif est d'abord du social media first, c'est-à-dire d'abord social media, mais ce qui n'empêche que regarde aussi ce qui se passe à côté et comment finalement on fait bouger tout l'écosystème et comment tout l'écosystème mais aussi la communication globale évolue avec ces outils-là. Donc nous avons parlé de tout cela avec Thibaut, et c'était une discussion que j'ai vraiment adorée, parce que Thibaut, il est comme moi, il est passionné, il est pas tout jeune, attention, quand je dis ça, on parle de quarantenaire, presque quarantenaire pour lui, moi quarantenaire, mais c'est vrai que on en a vu passer des choses, des réseaux sociaux, des outils qui sont passés, et on a aussi vu des tendances, et finalement on se rend compte que il y a des tendances de fond, des choses qui sont là depuis des années, mais avant l'invention d'Internet, et qui sont toujours là et qui vont rester parce que finalement c'est ce qui structure aussi la communication. Bon, je vous laisse, j'arrête de parler maintenant, je vous laisse sur cette discussion avec Thibaut. Non, sans vous dire que premièrement, bien sûr, vous pouvez laisser une note sur iTunes et sur, enfin, ou Apple Podcast maintenant, pour aider le podcast à se développer. Et aussi, si vous connaissez quelqu'un, enfin, si vous avez envie d'écouter quelqu'un, mais mieux, si vous avez envie d'écouter quelqu'un que vous connaissez, vous êtes capable de me dire, bah tiens, je connais telle personne, elle serait très intéressante pour parler de certains, de tel ou tel sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Alors, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, vous pouvez le faire par mail, hein, sur le site, vous allez sur votrecoachway.com. Comme vous avez mon formulaire de contact, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire, bah tiens, je pense, j'aimerais bien entendre cette personne me parler de tel sujet, ça m'intéresserait vraiment, et si vous pouvez me mettre en contact avec elle, c'est encore plus génial. Voilà, je vous en remercie d'avance à la fois pour les commentaires et pour la mise en contact, la mise en relation, et moi je vous laisse écouter cette discussion avec Thibaut, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour Thibaut, comment vas-tu ?
Salut Bertrand. Très très bien, je suis ravi d'être avec toi ce matin.
Eh ben merci d'avoir accepté mon invitation. Alors tu as un invité un petit peu spécial, hein, je le dis, parce que c'est d'habitude je m'adresse plutôt à des, jusqu'à maintenant, à des indépendants, à des gens qui sont plutôt seuls, on va dire, hein, chez eux, que ce soit des consultants, que ce soit des blogueurs, que ce soit des entrepreneurs au sens large, mais plutôt seuls. Alors que toi, en fait, le cas particulier aujourd'hui, c'est qu'on va parler plutôt d'une agence, hein. Alors c'est pour ça que je vais te laisser te présenter, nous dire vraiment ce que tu fais, qui tu es.
Eh bien écoute, je m'appelle donc Thibaut Tourvieille de Labroue et je suis effectivement directeur d'une agence qui s'appelle Supernatif. Et c'est une agence qui est une agence spécialisée en social media, donc tout ce qui a trait aux réseaux sociaux. Et nous, notre boulot, c'est d'aider des marques à créer des relations en ligne avec leurs audiences, hein, qui peuvent être des clients, qui peuvent être des partenaires, qui peuvent être parfois des futurs employés, des collaborateurs, etc.
Quand tu parles d'une agence, vous êtes combien ?
Alors, on est 6 personnes. On est basé à Lyon, donc on est quasiment voisins.
Hein. Oui, on est à 1h30 de route. Et par le train, je le dis pas parce que le train n'arrive plus. donc vous êtes 6 personnes, mais en fait, il y en a 3 qu'on entend principalement, et c'est ce qui m'intéressait aujourd'hui parce qu'on va parler de ça. C'est que vous avez lancé un podcast qui s'appelle le Super Daily, où on vous entend. Alors toi principalement, j'ai envie de dire pratiquement tous les jours, hein, à quelques rares exceptions.
Et oui, c'est ça. Moi, je parle tous les jours. Et puis après, j'ai Adjan et Camille, qui sont donc deux collaborateurs qui, font plus que jouer au ping-pong et faire les chroniqueurs, hein, animent avec moi ce podcast.
Et donc, votre sujet, c'est que... Et c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est que vous le faites en quotidien. Alors, mis à part sur l'été, hein, on en reparlera, mais en quotidien, donc 5 jours par semaine, vous animez ce podcast sur l'actualité social media, on va dire, hein, grosso modo. Quel était l'objectif au départ quand vous avez lancé un podcast quotidien ?
Alors écoute, ouais, quotidien. T'as raison de préciser quotidien, hein, parce que tu connais Bertrand le challenge que ça représente. Donc c'est pour ça que t'insistes sur quotidien. Je vois bien où tu veux en venir. Écoute, ça faisait l'histoire, c'est que ça faisait un bon bout de temps, hein, que moi j'étais intéressé par ce format qui est le podcast et que j'en écoutais à titre personnel et que je me disais il faudrait qu'on en fasse, il faudrait que je trouve le moyen d'en faire. Et donc j'avais fait, je pense comme beaucoup de créateurs de contenu. J'avais commencé par acheter du matos qui a fini par prendre la poussière au fond d'un placard. Et ça devenait un peu problématique. Et à côté de ça, enfin du moins, en tout cas, ça me faisait réfléchir à tout ça. Je ne trouvais pas le format. Je ne voyais pas exactement. Je voulais le faire, mais je n'étais pas encore sûr de quoi. Et puis, parallèlement à ça, on a donc Supernatif, notre agence, qui, tous les matins, faisait de la veille, hein, entre nous. Tous les matins, on prenait un moment pour parler outils, parler plateformes sociales, parler nouveautés. Et on prenait, on va dire, une bonne heure à échanger autour de tout ça. Et puis, au bout d'un moment, Adjan, qui est donc aujourd'hui co-animateur de ce podcast avec moi, me dit, mais Thibaut, franchement, ton idée de podcast, elle est simple. C'est que ce qu'on se raconte le matin autour du café, on n'a qu'à le rendre public. Voilà. Et c'est à peu près comme ça que c'est venu. Et après, pour revenir sur le format quotidien, l'idée initiale, c'était, en fait, on s'est beaucoup posé la question, hein, de se dire, bah, pourquoi pas hebdomadaire, etc. Mais en fait, on voulait s'enlever un peu une épine du pied en évitant d'avoir trop de pression au moment de produire du contenu. Donc, on s'est dit, tiens, si on le fait quotidiennement, d'une, ça crée une routine qui est positive chez nous, et puis de deux, ça permettra aussi qu'on aborde la question de la création de contenu avec la légèreté d'un format quotidien. Alors voilà, du coup, c'est la meilleure idée qu'on ait eue et en même temps notre pire fardeau, parce qu'il faut quand même produire du contenu quotidiennement, quoi.
Oui, alors, mais je comprends en fait cette logique-là de s'enlever de la pression, et puis en plus, vous êtes enlevé une pression de dire quand est-ce qu'on enregistre ça, de le déplacer au cas où, parce que moi je trouve que plus on espace les sessions, plus on a de chances de louper les rendez-vous.
Ouais, t'as raison.
Ouais. Et là, je pense que bon, vous savez que le matin, dans tous les cas, vous avez ça enregistré et que c'est devenu une vraie routine en fait.
Ouais, c'est ça. Bah toi qui es un runner émérite, c'est vrai que si ta session d'entraînement, tu te donnes pas des jours précis pour ça et des horaires, et bah t'as vite tendance à la décaler. Donc là, c'est un petit peu la même chose avec la création notre podcast en tout cas. L'idée effectivement, c'est de se dire si c'est quotidien, et ben déjà on a même été suffisamment furieux pour carrément le mettre dans le titre du podcast, hein, le super daily, comme ça au moins c'est fait, on peut plus faire machine arrière et maintenant c'est quotidiennement, voilà.
Alors quand même, ça a des contraintes le quotidien qui sont quand même importantes, lourdes, parce que combien de temps vous mettez à préparer? Alors, on va dire, hein, c'est un format, vous faites quoi, 20-25 minutes à peu près par jour?
C'est ça, c'est à peu près... Alors initialement, on avait pour projet de faire beaucoup plus court. Et puis, on avait pour projet de faire à peu près 15 minutes. On se disait 15 minutes, ça serait bien. Et on n'arrive pas à tenir ce format. On a beau s'appliquer, hein, depuis un bout de temps maintenant. Et finalement, on est toujours entre 20 et 25 minutes. Ouais.
Mais en fait, ça m'étonne pas du tout. Vous n'arrivez pas à tenir. Plus c'est court et plus il faut de préparation et plus c'est vraiment minuté. C'est la grande force des radios d'ailleurs. Hein. Faire tenir en 3 minutes un truc, nous, on mettrait 20 minutes
vrai.
À faire. C'est juste un métier qui est particulier. Donc, on va dire 20-25 minutes d'antenne, hein, je sais pas comment on va appeler ça, et de préparation, combien de temps alors?
Alors écoute, on a fait récemment, on a un peu fait les comptes, hein, parce que tu sais, moi, en bon manager, au bout d'un moment, j'ai dit c'est bien beau notre histoire, mais combien de temps ça nous ça nous prend tout ça? En fait, un épisode de podcast chez nous en préparation prend à peu près, on va dire, 2 heures. Avec un jeu qu'on garde entre nous, qui est qu'on ne le prépare pas ensemble. C'est-à-dire, on ne croise pas nos notes avant l'épisode. Moi, je prépare 1 heure dans mon coin. Camille ou Adjan, en fonction de qui est avec moi, prépare aussi dans son coin. Et puis, le jour J, à 9h du matin, puisque c'est tous les matins à 9h qu'on enregistre, eh bien, moi, je pilote cette émission avec la difficile mission pour Camille ou Adjan de rebondir sur le fil conducteur que j'ai trouvé.
D'accord. Donc vous fixez, on va dire, des sujets. Alors j'imagine assez longtemps à l'avance. Enfin, longtemps à l'échelle social media, c'est toujours une semaine ou 2 semaines peut-être.
À 2 semaines, on n'est pas encore parvenu. On aimerait bien. Pour l'instant, on est à peu près sur une semaine. Ouais, effectivement, une semaine à l'avance, on sait à peu près de quoi on va parler. Hormis évidemment, actu de dernière minute où là, on va tout chambouler et le jour pour le lendemain, on va faire un truc.
Oui, c'est ce qui fait que quand Facebook annonce le lancement de Libra ou des choses comme ça, de toute façon, vous êtes obligé de rebondir sur l'actualité. Parce que sinon, les gens comprendraient pas vraiment non plus. Hein, quand on est dans ce format-là, on attend de la réactivité. Mais c'est aussi le gros avantage. Hein.
Exactement. L'idée, c'est de saisir... Alors, c'est très cool parce qu'on... Il y a des sujets de fond, hein, en social media évidemment, donc ça tu peux imaginer les préparer à l'avance. Et malheureusement, le rythme quotidien nous permet pas trop de produire du contenu à l'avance. Donc on enregistre vraiment le jour J pour une diffusion le jour J, ce qui nous permet de toute façon, même sur des sujets un peu de fond, de les nourrir aussi de choses d'actualité, ce qui à mon avis à l'écoute est plutôt intéressant, en tout cas vient peut-être renforcer le sujet. Et puis ça nous permet effectivement de saisir des opportunités de contenu sur de l'actualité. Hein. Nous, la promesse qu'on fait dans ce podcast, c'est de donner tous les matins l'actualité social media dans un podcast. Donc voilà, donc ça nous oblige à... Mais c'est vertueux, hein. C'est très vertueux pour nous, hein, parce que ça nous contraint à être extrêmement en veille sur ce qu'on raconte. Hein.
Alors, en bon manager tu es quand même, il y a un côté entrée, combien de temps ça prend finalement, hein, en préparation, combien de temps ça prend après l'enregistrement finalement aussi, parce que la publication techniquement, etc., comment vous avez optimisé ça? Genre, j'imagine que vous l'avez optimisé un petit peu.
Ouais, alors là-dessus, on est 3 à animer ce podcast, donc tu l'auras compris, à moi et à Jan ou Camille qui tournent. Et puis après, derrière, on a effectivement une équipe qui, c'est un confort absolu, hein. On a une équipe qui s'occupe, une fois que cet enregistrement est fait, de le diffuser. Donc ça commence par un travail sur les notes d'épisode, où là, on s'applique à avoir des vraies belles notes d'épisode avec du contenu dedans, des sources, etc. Et on imagine que ce contenu-là, il puisse aussi être une source d'infos intéressante. Ensuite, on va héberger ce podcast donc sur une plateforme d'hébergement. Dans notre cas, on utilise une plateforme d'hébergement d'ailleurs qui s'appelle Simplecast. Hein. Il y en a plein d'autres, mais celle-ci nous va assez bien. Et puis ensuite, effectivement, on va le diffuser, le déployer sur les plateformes sociales, parce que là, c'est vraiment notre spécialité. Donc, on s'applique à le faire de façon un peu exhaustive. Et donc, on va effectivement créer des posts avec des extraits sonores issus de cet épisode-là, le déployer sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Et là, on va dire, tout ce travail après enregistrement, ça représente à peu près une heure et demie de temps de travail.
Oui, donc c'est-à-dire qu'on arrive quand même à un format qui vous coûte, je veux dire, en temps humain, hein, grosso modo, si on prend vos heures de préparation, etc., ça vous coûte quand même assez cher, hein, si vous deviez vendre ce temps-là, en fait.
Eh ben, en tout cas, ça nous prend 3h30. Alors moi, je préfère dire qu'on investit, hein, là-dedans, parce que on investit nous déjà pour faire en sorte ici qu'on reste une agence vraiment experte sur notre sujet. Hein, et tu le sais, les réseaux sociaux, les choses vont tellement vite que si tu t'accordes pas un temps quotidien de veille, et ben t'as vite fait, à mon avis, de perdre le bon tempo et de plus être dans les thématiques d'actualité. Et puis ensuite, évidemment que c'est un investissement qui à un moment donné sert l'agence, hein, c'est de la visibilité, hein, concrètement.
Oui, alors c'est là où ma question du manager revient, c'est finalement, est-ce que dessus vous avez mis un calcul de retour sur investissement, ou est-ce que finalement, j'ai un peu la réponse parce que comme j'écoutais un épisode bilan, vous en avez déjà parlé, mais quelle est finalement la mesure du retour que vous faites, et sur quoi vous allez mesurer, je vais pas dire l'efficacité, je sais pas comment vous le qualifiez en fait.
Alors pour être franc, là je vais te dire des choses, un an après l'enregistrement du premier épisode, quand on a enregistré le premier épisode, quand on l'a fait seulement pour le kiff, hein, ce truc-là, on n'avait pas vraiment intellectualisé, fait un BP avant, on l'a fait parce qu'on disait qu'on avait des choses intéressantes à raconter, puis surtout qu'on avait envie de prendre la parole, je crois que c'est le point de départ. Très certainement. Ensuite, pour aller plus loin, au moment où on a créé ce podcast, on a fait ce qu'on déconseille à nos clients, c'est-à-dire qu'on l'a fait sans aucune notion d'audience en tête, vraiment.
Bien entendu.
On ne savait pas pour qui on le faisait surtout pour nous. Donc la question du retour sur investissement n'était pas du tout dans l'équation. Par contre, chemin faisant, compte tenu du temps que ça nous prenait, de l'énergie qu'on y mettait et de l'enthousiasme qui restait intact, bah j'ai commencé à essayer de rationaliser un peu, hein, de me dire ça nous apporte quoi. Et en fait, oui, ça nous apporte aujourd'hui pas mal de visibilité, hein, c'est assez intéressant. Ça nous apporte déjà nous on est une agence social media, donc ça nous apporte de discuter avec plein de gens, de se nourrir aussi de ce que les gens nous retournent comme info. D'avoir la chance d'avoir des informations parfois avant d'autres, hein, aussi ça c'est très intéressant pour nous. Et puis aussi à un moment donné, ce qui est assez chouette, c'est qu'on se retrouve un peu malgré nous avec une audience qui est une audience auquel on souhaite parler et sur lequel en termes plus business, on a potentiellement des choses à vendre aussi, donc ça c'est intéressant.
Oui, alors c'est quand même super rassurant, hein, je vais dire pour beaucoup qui sur cette histoire, vous n'avez pas de persona ou quoi que ce soit d'audience cible au départ, ça rassure en fait tous ceux qui veulent se lancer et qui passeraient trop de temps parfois, parce qu'on se dit à qui je vais parler, comment je vais leur parler, quelle est cette audience cible. On le déconseille à la plupart des clients, mais il y a quand même des trucs qu'on fait alors qu'on les déconseille aux clients, et je crois que ça c'est typiquement le genre de projet où finalement c'est en allant essayer de le faire, hein, qu'on va aussi voir qui finalement on arrive à toucher, hein, d'une manière ou d'une autre, hein.
Ouais, t'as raison, et c'est vrai que même nous dans notre approche client, on les invite évidemment à faire ce cheminement avant de mettre en place une stratégie social media, de prendre la parole, de savoir pour qui ils prennent la parole. Je pense que c'est malgré tout c'est conseillé, hein. Nous on avait une vague idée, mais ça restait très très flou quand même. Mais ce qui est certain, c'est que ne pas le faire, c'est le pire. C'est-à-dire que Si tu attends indéfiniment et que tu passes 2 ans, 1 an, 6 mois à peaufiner tes personas, à te dire mais à qui je m'adresse, attends, faut que je sois sûr, etc. Le risque, c'est que finalement tu ne fasses jamais rien. Donc faut aussi trouver le bon compromis là-dessus.
Ouais. Alors je vais raconter une anecdote que j'ai racontée, je crois, il y a très longtemps. Quand je travaillais au Conseil régional d'Auvergne, on avait lancé une page Facebook, et à l'époque, c'est la première page Facebook de collectivité locale. Et en fait, j'ai juste pris à témoin mon voisin que j'avais en face de bureau. Je lui ai dit, écoute, je vais créer une page Facebook. Je t'ai prévenu, mais on n'en parle pas au chef, à la direction, au cabinet, etc. Et il me dit pourquoi. Et il me dit, je dis, sinon ça va prendre trop de temps en validation. Il me dit, oui, je crois que t'as raison. Donc on s'est lancé. Et en fait, ils s'en sont rendu compte quand on avait 7000 fans. Alors, ça a pris un peu vite. Et en fait, ils s'en sont rendu compte parce que tout d'un coup, ils se sont rendu compte qu'on était les premiers à avoir créé ça, hein, tout simplement. Et ils m'ont dit, mais comment ça se fait qu'on est les premiers? Je lui ai dit, c'est parce que je t'ai pas demandé l'autorisation. Et donc, on avait court-circuité, mais complètement le schéma. Et ensuite, alors derrière, eux, ils ont voulu mettre la couche stratégique, etc., tu vois. Et c'est là que ça s'est devenu un petit peu plus compliqué à l'époque, parce que tout d'un coup, il y avait une réflexion qui devenait politique, tu vois, au lieu d'être une réflexion purement comment moi, en tant qu'Auvergnat, je voudrais avoir de l'information de ma collectivité, on est rentré dans une information qui était plus politique, et peut-être d'ailleurs que le succès n'aurait pas eu, on n'a pas eu tel succès, tu vois, sur l'instant. Donc des fois,
de la spontanéité. Moi, je crois vachement à ça aussi. Hein. Parfois, il y a des intuitions, il faut les faire, et puis affiner en cours de route. Là, je pense qu'on avait une intuition, on a décidé de pas trop l'intellectualiser avant de se lancer. Peut-être aussi, tu vois, pour s'enlever un peu de pression, hein, de se dire non mais c'est bon, on le fait pour nous avant tout, et on verra bien ce qui se passe. Et du coup, ça permet sans doute d'avoir trouvé aussi dans la manière de faire une tonalité à nous avant de se poser la question de exactement pour qui on le fait, comment on peut leur parler précisément. Quoi.
Ouais. Alors, il y a un truc quand même que vous avez bien préparé, je trouve, enfin qui est et ceux qui l'ont écouté savent de quoi je parle, c'est votre générique. tout de suite quand on rentre, et je suis certain que on vous parle souvent de ce générique.
Mais oui, en plus, c'est vrai, ouais. C'est très marrant. Tu veux que je t'explique comment c'est né tout ça? Alors, en fait, je reprends l'histoire. Hein. Adjan me dit, mais en fait, il est là, ton podcast, on va faire ça et on va le faire quotidiennement. Donc, je lui dis, ok, ça marche, on part là-dessus. Ensuite, je m'absentais quelques jours sur le Tour de France pour un client. Je lui dis, ok, écoute, je m'absente de telle date à telle date. Quand je rentre, je veux qu'on ait un générique et puis on fait le premier enregistrement le jour où je rentre. Donc voilà, et donc il a goupillé ça dans son coin. Il y a des talents hein, ici. Hein.
Ouais.
Voilà, et c'est vrai que le truc est très bon. Ouais, même moi je l'ai dans la tête. Hein. Ça m'arrive de me lever le matin et de le fredonner.
Oui, et puis alors moi le petit effet stéréo qui passe d'une oreille à l'autre, etc. Moi qui diffuse en mono en plus, ouais, j'ai pas besoin d'avoir cet effet-là. Mais en fait, je suis vachement jaloux. Hein. Et te rappelles, c'est l'un des premiers messages que j'avais envoyé sur Insta.
Je me souviens.
Mais comment vous avez fait ce générique-là, quoi? J'ai dit, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'ils ont trouvé un tel générique?
C'est de la bonne bricole. Hein. Je pense que ça a été fait sur GarageBand, hein, à l'ancienne, on va dire. Alors, pour la petite histoire, c'est Adjan qu'on entend chanter. Hein. C'est Adjan qui chante le générique.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Ouais, bon bah c'est un très 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 bon générique et je pense que ça fait vraiment une marque de fabrique en fait. Quand on entend ça, on sait tout de suite vraiment qui nous parle. Et ça c'est vraiment un point vraiment qui était super intéressant. Pour en revenir sur les bénéfices, on a parlé hein, l'histoire de la veille, etc. Est-ce que tu penses, on a un petit peu parlé, vous êtes devenus de meilleurs conseillers, accompagnants, entreprises, stratèges, etc. en faisant ce travail-là quotidien, en fait?
Oui. Oui, la réponse, elle est assez immédiate, c'est oui. Déjà en termes d'équipe, hein, on a une approche équipe maintenant, ce qui était peut-être moins évident avant, et maintenant on a vraiment une approche équipe où on a ici des gens qui peuvent prendre la parole comme ça 20 minutes à la volée le matin sur un sujet parfois un peu expert et sont capables de le décrypter tout l'enjeu pour nous. c'est de rendre compréhensibles ces sujets sans tomber dans du jargon, sans tomber dans un truc trop entre soi. Et ça, c'est un exercice qui s'apprend. Enfin, c'est un truc qu'il faut bosser, hein, parce que t'as beau savoir, savoir transmettre, savoir expliquer, c'est pas pareil. Et ouais, là-dessus, je pense qu'on a vraiment progressé collectivement.
Sur le plan de vos clients, est-ce que vos clients vous ont dit qu'ils écoutaient le podcast?
Ouais, ça arrive. Ça arrive. Pas tous. Il y en a qui ils écoutent vite fait. Ils écoutent. Ils se disent ouais, bon, je peux leur parler direct. Hein, si j'ai une question, je leur pose. Et après, par contre, sur nos nouveaux clients, et ça, c'est forcément le côté très cool. Hein, c'est que sur nos nouveaux clients, les gens qui nous appellent aujourd'hui, eh bien, c'est pas rare effectivement que la personne à qui on a au téléphone sur un premier contact nous dise ah, j'écoute le Super Daily. Voilà.
Parce que je te pose la question parce que j'ai souvent des retours de gens qui vendent de leur cerveau, hein, finalement, parce que c'est aussi ce que vous vendez, vous, votre compétence, qui me disent oui, mais si je dis tout, si je raconte trop de choses dans un podcast, au final, mes clients potentiels, ils ont plus besoin de venir me voir. Et alors que finalement, le podcast est aussi une manière de montrer que vous pouvez leur apporter beaucoup de choses.
Ouais, alors là c'est un sujet que nous on a très vite éludé. On s'est dit non, mais ça c'est pas le propos. Si on doit apporter de la valeur, si on doit, il faut le faire pour de vrai. On va pas planquer, donner la recette de la mayonnaise sans donner les ingrédients. Non, on va donner tout ce qu'on a à dire sur ce sujet. On planque pas d'infos. On donne tout. On est très simple sur l'approche. Hein. Il y a pas de stratégie en se disant tiens si je donne tout, ça va être risqué. Au contraire, je pense que là-dessus, la force d'une stratégie, et c'est ce qu'on recommande aussi à nos clients, hein, d'ailleurs, hein, c'est la force d'une démarche social media en ligne, eh ben, elle doit passer par l'apport de valeur. Comment je peux apporter de la valeur ajoutée aux gens? Comment je peux les intéresser? Le point de départ, c'est comment je peux les intéresser? Ben, en leur donnant quelque chose. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire.
Et alors, surtout, c'est que vous avez réussi à donner quelque chose qui soit pas juste de parler de vous par rapport à vos médias classiques, Instagram, etc. Parce que animer le compte ou Instagram, par exemple, d'une agence comme la vôtre, ou une page Facebook ou quoi que ce soit, ça serait super galère, hein, faut dire. On a pas grand chose à raconter à part publier quelques articles, un peu des liens, des choses comme ça. Alors que là, tout d'un coup, vous avez un vecteur de partage de contenu qui est vraiment, je vais pas dire magique parce qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière, mais qui est quand même excellent, quoi.
Ouais, bah ça c'est vrai qu'en termes d'animation de contenu sur nos propres réseaux, on est même, je vais pour être franc, on est même plus en difficulté quand il s'agit de parler de nous parce que aujourd'hui ce qui est la meilleure manière de parler de nous, c'est de parler de ce qu'on fait et de ce qu'on donne sur le podcast notamment. Donc c'est vrai qu'on a c'est un exercice qui maintenant c'est un peu inversé. C'est compliqué pour nous ici de prendre des photos d'agence et juste de raconter qu'on a bu des cafés ce matin. Et c'est vrai que là-dessus ça nous permet d'avoir, on pense en tout cas, des comptes en ligne qui voilà, où les gens peuvent nous suivre et suivent pas juste l'actualité d'une agence, ont de la valeur, quoi. Et ça, je pense vraiment que c'est la base d'une bonne démarche social media. Nous, c'est exactement ça qu'on dit à peu près quotidiennement à nos clients, c'est dire mais qui va s'abonner à votre page, quoi? Qui va s'abonner à votre compte si vous ne parlez que de vous? Tout le monde s'en fout. Par contre, si vous avez des choses à apporter, si vous avez des choses à donner, là vous commencez peut-être à devenir intéressant.
Effectivement, c'est le conseil qu'on donne à tout le monde, hein, c'est pourquoi, bon Dieu, je m'abonnerai à votre page si vous racontez des choses inintéressantes. Mais en fait, beaucoup s'en rendent pas compte, hein, que c'est pas très intéressant finalement ce qu'ils ont à raconter, et que le contenu doit vraiment être centralisé, mais vraiment centré sur ce que leur audience a envie d'apprendre, envie de découvrir ou a besoin dans son parcours à elle, hein, tout simplement. Effectivement, là, vous avez trouvé un outil qui est extrêmement pratique, je trouve. Comment tu vois d'ailleurs à ce sujet-là le lien entre social media, podcast, le partage entre eux, parce que tu l'as dit, hein, partage sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Est-ce que vous avez réussi à mesurer finalement du retour, ou est-ce que les gens passent de l'un à l'autre facilement, ou est-ce que vous avez eu des retours là-dessus?
Ben, alors ça c'est vachement intéressant comme question, parce que nous on est une agence experte en social media, donc le podcast, tu te dis le lien est pas forcément ultra évident, ce format là c'est un format qui sonne pas social media, puis c'est vrai qu'intrinsèquement il l'est pas forcément, c'est davantage qu'on va appeler du contenu lion, du brand content pur et dur. Et là-dessus, en fait, j'ai un peu changé ma vision et ma façon de voir les choses. J'ai le sentiment que plus le temps passe et plus on est en train de de basculer dans une ère où qui était vraiment le snack content qu'on trouvait en social media, quelque chose de très très consommable, vers une recherche qui revient vers le temps long, tu vois, des choses plus longues, etc. Où là, le podcast, peut-être le blog aussi, hein, ou la newsletter, tiens, sont des choses tout à fait intéressantes. Et qu'en fait, nous, on dit qu'on est une agence social media, mais je trouve ce qui dirait le mieux ce qu'on est, c'est une agence social first, c'est-à-dire qu'on pense d'abord social dans notre approche. Et que du coup, bah, la question du temps long, elle est indispensable, en fait, je crois, aujourd'hui, dans une bonne stratégie réseau social pour une marque. De se dire, bah oui, j'ai des contenus qui sont snackables, c'est-à-dire qui sont consommables facilement, et à côté, bah, j'ai des contenus à forte valeur ajoutée et qui, eux, nécessitent d'arriver à capter des audiences de façon plus longue. Donc après, le grand jeu, l'enjeu, on va dire, c'est de faire en sorte de ramener les gens vers ce format long et de les rendre, de les faire adhérer à ce format long. Donc, on mesure difficilement, tu sais, aujourd'hui le podcast, c'est, on manque parfois un peu de métriques, un peu de data, hein, tu sais bien ça, pour savoir exactement d'où les gens viennent, etc. Alors, on a nos petites stratégies, hein, pour faire en sorte de, et on se rend compte, alors, dans les leviers d'acquisition de nouvelles audiences sur le podcast, que c'est le bouche à oreille qui est en premier, mais très largement. Quoi. Ça, c'est très très impressionnant. Tu te dis, mais en fait, le nouveau viral, ben en fait, c'est tout simplement le bouche à oreille, hein, ce truc qui est vieux comme le monde. Et là-dessus, c'est, on a mis un petit script, hein, sur Instagram. Je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs, qui fait que quand quelqu'un s'abonne à notre page, on lui pose une petite question, c'est comment est-ce que tu nous as découvert?
Ouais.
C'est le point de départ d'une conversation, en fait. Et nous, ça nous permet de commencer à glaner cette conversation, des infos sur bah, d'où les gens viennent, comment ils ont eu conscience de qui on était, de notre podcast, etc. Et bien souvent, le bouche à oreille, c'est le plus gros levier, quoi.
Je crois que j'ai eu le petit script, en fait. Je suis en train de vérifier, mais je sais pas depuis combien de temps vous l'avez. Et je crois même que je vous ai demandé si vous lui envoyez vraiment le message manuellement ou si c'était un robot qui le faisait, en fait.
Bah, initialement, on le faisait à la main. Maintenant, ça devient un peu fastidieux. Donc, on a trouvé un petit script, hein, voilà, qui nous permet d'automatiser ça, effectivement, quand quelqu'un s'abonne à notre page Insta, il y a un petit message perso qui lui est envoyé. Et puis après, par contre, la conversation, elle est individualisée, quoi. Mmh. Après, c'est du perso.
Justement, tiens, allez, c'est intéressant. C'est l'automatisation, les scripts comme ça, etc. Quand on est une agence sociale comme la vôtre, j'imagine vous avez souvent des questions des clients qui vous disent est-ce qu'on pourrait pas automatiser telle ou telle chose, est-ce qu'on pourrait pas publier automatiquement sur notre page sans y passer autant de temps. Enfin, j'imagine vous avez souvent quand même ce genre de questions ou en tout cas de préoccupations, non?
Alors bien souvent même, on récupère des comptes qui sont passés par là. Hein, donc nous on intervient après sur le champ de guerre, en fait, mmh. Hein, avec des comptes qui sont explosés, qui ont pris l'eau et qui ont des audiences complètement mal fichues. Et en général c'est à ce moment-là qu'on intervient en disant j'ai tout automatisé et en fait je comprends pas, ça marche pas. Donc nous là-dessus on a un parti pris très clair, hein, c'est l'automatisation. On est absolument pas pour. Je pense que tu nous as entendu, hein, nous exprimer un certain nombre de fois là-dessus. Donc tout ce qui est principe d'automatisation sur Instagram, etc. Nous c'est des choses qu'on pratique pas du tout, vraiment pas du tout, parce qu'on pense que dans social il y a deux choses. Déjà d'une que le marketing c'est de l'humain avant tout, hein, c'est quasiment de la sociologie plus que des maths. Donc à partir de là, il faut qu'il y ait une grosse dose d'humain. Et puis que le social media, ça implique aussi là aussi de l'humain et de l'empathie et de la compréhension et donc des gens derrière. Donc on passe pas par ce genre d'outils.
D'accord. Alors c'est là où
hormis sur des micro interactions, tu vois, comme ça, en fait c'est des welcome messages, hein, des messages de bienvenue sur un compte. Ça c'est des choses qu'on peut faire parce que c'est le début après d'une conversation, c'est pas inintéressant.
Oui, tout à fait. Moi je suis en train de tester des bots pour des pages Facebook en ce moment par exemple, et on peut poser une question ou deux pour démarrer la conversation ou comme vous l'avez fait, hein, c'est intéressant, ça démarre la conversation. Il faut notamment rappeler parce que je pense que les gens n'ont pas la vision de ça, c'est que tout ce qui est messagerie privée, et notamment sur Instagram, etc., c'est quand même un outil qui a une puissance qui est remarquable. Et de lancer la discussion comme vous le faites, finalement, c'est aussi un moyen de se rapprocher de l'humain. Alors, de le faire manuellement, ça peut être fastidieux, comme tu l'as dit, mais de lancer cette discussion-là et puis de se dire ensuite, on répondra à ceux qui nous répondent, hein, parce que tout le monde vous répond pas, j'imagine, à votre script.
Non, bien sûr. Oui, oui, ça permet de savoir ceux avec lesquels on a. En fait, ça permet de jauger l'audience qu'on a en face de nous, les personnes qui répondent à cette première question. En fait, on est déjà dans l'engagement, donc là, c'est évident qu'après, on rentre dans une conversation. Et parfois, effectivement, t'as raison, il y a des choses excellentes hein, qui se passent en direct message. C'est l'avenir du social media aujourd'hui, la messagerie privée. Hein.
Oui, alors justement, l'avenir du social media, je sais pas si t'as une boule de cristal pour parler comme ça, mais comment toi tu vois l'évolution de ces outils-là, hein, comment, et est-ce qu'on peut essayer d'imaginer en fait, alors attention, on va pas dépasser les 5-6 mois qui restent dans l'année 2019, hein, parce que je pense déjà il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont changer, mais comment tu vois l'évolution de ces outils-là en fait?
Alors nous, on a, allez, je vais dire moi parce que à force de dire nous, ça fait un peu genre la secte. Donc non, moi je suis assez convaincu d'un truc, c'est que mais c'est pas des convictions en mode boule de cristal, hein, c'est des choses qu'on voit déjà et qui vont s'accentuer. Déjà, y a une certitude, c'est qu'il y a un déplacement des conversations, du conversationnel sur les réseaux sociaux vers le privé, donc vers tout ce qui est messagerie privée, groupe privé, etc. C'est pas moi qui invente ça, hein. C'est ce que Mark Zuckerberg a dit au F8, hein, la grosse conférence des développeurs Facebook. Et donc ça, c'est un premier truc sur lequel c'est quand même un vrai chamboulement, quoi. C'est que jusqu'à présent, les réseaux sociaux étaient un territoire pour le branding de marque, où tu pouvais encore reproduire un certain nombre de codes. Qui étaient ceux issus d'autres médias, avec un truc un peu top-down où tu balances ton message sur tout le monde, ça c'est un peu en train de changer, et tu arrives dans des relations beaucoup plus personnelles, individualisées avec des gens, avec tes consos, avec tes audiences, dans les messageries privées. Donc ça c'est un premier changement de logiciel qui est intéressant et sur lequel il faut absolument se positionner.
Et est-ce qu'une marque, j'imagine quand même, là vous avez un gros travail de sensibilisation d'une marque à faire là-dessus, parce que c'est pas simple, hein, d'expliquer ça à des gens en plus qui sont salariés d'une entreprise qui est des fois très grosse, et ils ont peut-être pas toutes les responsabilités pour le faire, etc. Ça doit être quand même un travail assez compliqué, non, de les sensibiliser là-dessus.
Oui, effectivement, on passe pas mal de temps à leur expliquer ce que nous on constate déjà, hein. Donc on peut s'appuyer sur un certain nombre de données chiffrées, hein, et puis après tout simplement de leur remonter un certain nombre de choses qui sont dites, et qui sont dites notamment par les plateformes, hein, des signes parfois des signes courts, parfois des signes très très forts, comme Zuckerberg a pu le faire au mois de mars. Ça c'est des signes où tu sais que c'est ce qui va donner le ton, en tout cas sur les plateformes Facebook et Instagram pour les prochains mois, quoi.
Oui, et puis alors si on rajoute WhatsApp avec les versions, en plus il y a une WhatsApp Business aussi pour les entreprises, donc il y a énormément de choses effectivement qui nous dirigent vers de la discussion, hein, et qui nous éloignent aussi d'un aspect, et je pense qu'on a à peu près le même avis là-dessus, c'est tout ce qui est les vanity metrics, donc les nombres de j'aime, nombre de commentaires. Instagram a commencé à les masquer dans certains pays. Je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses.
Je pense que ça va être amené à disparaître. C'est assez rigolo. Il y a une espèce d'énorme paradoxe, hein. Tu t'en parles fréquemment, hein, j'ai écouté un certain nombre de tes épisodes qui parlaient de ce sujet-là, et qui parlaient notamment du fait que Facebook nous a d'abord vendu les pages en disant vous pouvez toucher plus de monde en augmentant votre compteur de fans, et puis qu'aujourd'hui en fait on peut plus toucher ces fans-là en portée organique, on est proche de zéro. Donc c'est vrai qu'il y a il y a quelque chose d'un peu cynique, une perception un peu cynique des plateformes, mais en fait ma vision c'est que c'est pas Facebook qui décide exclusivement sur la base de je veux faire chier les marques et leur prendre plus de pognon. C'est surtout les audiences de Facebook, les utilisateurs de Facebook qui ont exigé de la plateforme qu'elle évolue vers quelque chose de différent. Et là, on voit bien ce que fait Instagram en retirant les compteurs. Bah, c'est aussi un moyen pour eux de couper court un certain nombre de polémiques qui sont sorties, puis qui allaient s'accentuer sur bien le mal-être créé chez les jeunes, par exemple, sur la notion de like, etc. Donc, je suis pas sûr qu'à chaque fois ça soit toujours très une volonté des plateformes elles-mêmes. Et c'est peut-être bon signe. Hein, ça veut peut-être dire aujourd'hui que les utilisateurs de plateformes peuvent encore faire évoluer la plateforme dans une direction qui leur semble plus saine.
Ouais, mais alors est-ce que pour autant enlever le nombre de j'aime sur les profils et sur le nombre de sur les photos, hein, par exemple, va vraiment changer le mal-être que les gens peuvent éprouver, par exemple, je l'ai dit dans un des épisodes précédents, hein, si on regarde les gros influenceurs français notamment et leurs vacances en ce moment ou leur vie en ce moment, si t'es coincé dans un bureau quand même, tu prends un sacré coup par la figure tous les jours. Hein.
oui, bah après c'est évident que ça n'enlève rien aux logiques de l'influence qui passe notamment par te faire culpabiliser d'avoir une vie moins cool que ton influenceuse instagrammeuse préférée. Bah, ça c'est la base, mais il n'y a rien de nouveau en fait hein, d'inventé par Instagram. Hein. On en parle beaucoup, mais c'est pas non plus une grosse nouveauté. Moi je trouve que la disparition progressive des vanity metrics me semble aller plutôt dans le bon sens, mais ça va compliquer évidemment un certain nombre de choses et ça va obliger notamment les marques, hein, puisque nous c'est notre préoccupation, c'est les marques, comment elles utilisent ces plateformes-là, et ben ça va les obliger à penser différemment, à se dire ce qui est intéressant, c'est pas le nombre de personnes qui sont abonnées à mon compte, mais le nombre de personnes que je touche. Donc se poser des questions sur ce qu'ils investissent peut-être en publicitaire, en social media ads, en publicité sur les plateformes, se dire si je veux toucher plus de monde, bah faut peut-être que j'en passe par là, ou ce qu'ils vont dépenser peut-être justement en influence marketing, ou ce qu'ils vont investir comme action dans leur contenu pour faire en sorte que ce contenu y ait du bouche à oreille favorable et que la portée de ce contenu soit plus grande qu'un hypothétique compteur de fans qui est amené à disparaître.
Oui, et ce qui va, alors t'as raison de dire que ça va compliquer les choses, parce que autant les compteurs étaient c'était un indicateur qui était facile à mesurer, et j'ai envie de dire comme moi dans mon exemple, je donnais sur la page Facebook, hein, dire bah regardez, j'ai 7000 fans, on a gagné 7000 fans, c'est bien et on peut s'en vanter. Maintenant, ça veut dire qu'il va falloir trouver des outils de mesure qui vont devenir beaucoup plus compliqués à mettre en œuvre. Et pour une agence comme vous, d'ailleurs, c'est un joli pari hein, d'arriver à trouver ces outils de mesure.
Ah oui, bah si tu veux benchmarker, tu veux dire, ouais. Parce que les outils, on les a déjà compte par compte. C'est pas parce que les vanity metrics s'en vont que pour autant on n'a plus de metrics sur les plateformes sociales. Au contraire, on en a de plus en plus. Et effectivement, trouver un moyen de benchmarker ce que les autres font, c'est difficile. Mais peut-être que c'est pas utile. Enfin, à un moment donné, on peut se poser la question est-ce que le paradigme n'est pas en train de changer? Est-ce que c'est si utile que ça de savoir comment performe mon voisin? Est-ce que déjà je dois pas me préoccuper de savoir si moi je tire le meilleur profit des réseaux sociaux, de la force que ça implique, de la capacité que ça m'offre à rentrer en contact avec mes audiences, avec mes prospects, si le contenu que je leur apporte il a de la valeur ou pas. Et moi j'ai le sentiment qu'on revient peut-être aux fondamentaux et que ça a du bon aussi.
D'accord. Alors tiens, tant qu'on est sur cet état d'esprit, qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil d'état d'esprit sur le truc vraiment, tu te dis, quand on va sur, on va dire Instagram, à quoi il faut penser si je veux me lancer sur Instagram maintenant, par exemple?
Évidemment, ça va dépendre de ce que tu souhaites faire. Est-ce que tu veux te lancer pour faire quoi exactement? Pour devenir influenceur?
Oh, moi, tu sais, moi, j'ai aucune, en plus, le pire, c'est que je te dis ça, mais mon objectif de 10 000 fans. Alors, voyez, tu vois, les vanity metrics, quand même. ils font disparaître les vanity metrics, mais le chiffre en lui-même reste intéressant parce que c'est la barrière pour avoir des fonctionnalités de le swipe up et compagnie, hein, faut pas se cacher. Ils nourrissent aussi la machine, en fait. Et moi, je dis souvent, tu sais, qu'ils nourrissent, on critique beaucoup les bots, les achats de fans, etc. Mais en fait, ils la nourrissent aussi par ce biais de ces sortes de limitations qu'ils mettent, en fait. je traînais ce week-end sur des comptes, sur des groupes Facebook d'achat et de vente de comptes sur les réseaux sociaux. Truc qu'il faut surtout pas faire. Mais si tu trouves des comptes à 50 000 ou 100 000 abonnés qui sont à vendre, hein, tout simplement. Et donc, tu as toutes les fonctionnalités, tu vois, de liens, etc. Donc, bon, ça, il y a c'est des cas particuliers. On sait qu'il y a une étude qui est sortie, je pense que vous allez peut-être en parler, qui montre que les entreprises ont gaspillé des millions et des millions avec des faux influenceurs. Hein, c'est un truc qui est...
On en parle prochainement, tout à fait.
Ouais, c'est impressionnant, le chiffre. Hein, ça se chiffre en 2-3 milliards, je crois, hein, il me semble, dans l'année.
Je crois 2,6 milliards, il me semble, de mémoire.
Donc, c'est un chiffre qui est important. Donc, bon, ces chiffres-là, quand même, comptent, hein, il n'y a pas à dire. Mais disons, allez, je suis une petite entreprise, hein, j'ai pas trop, mon but du jeu, c'est pas d'être influenceur, mais c'est de me faire un petit peu connaître pour essayer de trouver quelques clients. Je me dis, je vais aller sur Instagram parce que ça semble être le réseau qui a la mode où tout le monde est sur Instagram. Qu'est-ce que je dois faire?
Alors, la première chose que tu dois faire, Bertrand, c'est te poser la question de pourquoi tu y vas. Hein, on va juste prendre un petit moment, tu vas faire différemment que nous et le Super Daily, tu vas quand même réfléchir à pourquoi. Et tu vas te dire, ok, qu'est-ce que je veux faire exactement? Ça peut être un peu tout, mais il y a peut-être un axe prioritaire. Est-ce que je souhaite me faire connaître? Et puis, il y a un autre angle qui, pour moi, est souvent sous-estimé, c'est est-ce que je veux gagner de la preuve sociale? Est-ce que j'ai déjà une petite notoriété à ma petite échelle locale et j'ai besoin que quand les gens hésitent à passer par ma boîte ou ont besoin d'un avis additionnel et qui tombent et qui recherchent ma boîte, ils tombent sur mon compte Instagram et qui se disent « Ok, ça a l'air sérieux ». Bien souvent, les gens qui se lancent vont penser d'abord en disant « je veux me faire connaître ». Mais peut-être que c'est pas le bon point de départ. Peut-être que le premier point de départ, ça peut être « je veux gagner de la social proof, de la preuve sociale et faire en sorte de ce qu'on appelle aussi de la réassurance ». Donc ça, je pense que c'est la première chose. Ça peut être un peu des deux, évidemment. Ensuite, il faut tout de suite que je me dise « ça va prendre du temps, ça va pas se faire en 3 minutes 30, ça va pas se faire en une année, ça va prendre du temps ». Et c'est normal parce que quand tu montes une marque, je sais pas, demain tu montes une marque de basket de sport, c'est pas du jour au lendemain que les gens vont avoir envie de porter ta marque de basket de sport. Il faut du temps avant que ta marque, que ton nom porte quelque chose et une valeur. Donc faut s'inscrire dans un temps long, dans une approche longue là-dessus. Il faut pas se dire qu'il y a des raccourcis et surtout éviter les raccourcis, hein, parce que les raccourcis, c'est ce qui va foutre en l'air tous les bénéfices que tu peux en tirer. Et puis ensuite, je pense que vraiment ce qu'il faut envisager, c'est se dire ok, j'ai peut-être 50, 100, 200 personnes qui me rejoignent sur ma page Instagram. C'est très bien. Au lieu de dire putain, c'est tout petit, non, c'est super bien parce que c'est 100, 150, 200 personnes. Ces gens-là, ils sont des prescripteurs, ils sont peut-être des clients, ils sont des prospects, ils sont des partenaires. Et ces gens-là, il faut déjà que je crée du lien avec eux. Et moi, si je suis une petite marque locale, une PME, est-ce que j'ai besoin d'un compteur de 15 000 fans sur Insta? Certainement pas. Si j'ai 1000 personnes qui me suivent et que ces gens-là, j'ai réussi à créer du lien avec eux, à créer, faire en sorte que ma marque, elle a une préférence pour eux, ce qu'on appelle la préférence de marque, j'ai déjà beaucoup gagné.
Ouais, bon, c'est un sacré boulot quand même ton histoire là.
Voilà, alors après je l'ai dit, hein, ça prend du temps et de l'énergie, mais par contre le jeu en vaut la chandelle.
Ouais. Est-ce que tu crois, on n'a pas la réponse comme ça, mais qu'une entreprise actuellement pourrait se passer d'une présence sur les réseaux sociaux?
Ah oui, je pense, ouais, je pense qu'elle pourrait. Tu vois, c'est marrant que tu dises ça parce que je pense que dans notre Trello du Super Daily, on a un Trello en interne qui nous permet d'organiser nos idées. Je pense qu'on a un sujet qui squatte depuis un petit moment, qui dit et qu'est-ce qui se passait si on n'avait pas de si notre marque n'avait pas de réseaux sociaux. Exactement cette réflexion-là. Moi, je pense qu'on peut faire sans. Hein. Il y en a un certain nombre qui font sans. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que Apple. C'est un bon exemple de ça. Apple, tu peux aller voir leur compte Twitter, tu peux aller voir leur Facebook et tout, il n'y a rien dessus, hein. Ils ne mettent rien. Pour autant, ils investissent des fortunes en publicitaire sur les plateformes sociales. Donc, tu peux tout à fait imaginer ne pas être présent en ligne. J'ai la conviction parce que c'est mon métier, parce que j'aime ça, que il y a plus à manquer que il y a un risque de rater des choses, mais par contre rien ne t'interdit de ne pas y aller, hein.
Alors c'est super intéressant ton exemple. Je suis allé voir je suis sur le Twitter d'Apple tout de suite, hein. Nombre de tweets, zéro.
voilà.
C'est assez dingue. 3 millions de followers, 0 following et 0 tweet. Donc qui est même surprenant d'ailleurs. Mais par contre, tu vois, sur Apple TV, des choses comme ça, sur des choses où ils ont plus de contenu, ils ont quand même ils ont quand même 9000 tweets, tu vois, ils ont quand même quelque chose à côté. Et Apple aussi est un exemple où ils leur contenu, hein, je pense notamment à la dernière pub là, tu sais, avec les bols là, le truc tourné sur iPhone là,
ouais.
a beaucoup tourné parce que c'est la qualité aussi de ces contenus là qu'ils produisent, hein. On pense aussi au film avec Michel Gondry, des choses comme ça, de Michel Gondry qu'ils avaient fait l'an dernier, qui fait que les gens vont le partager, ils vont partager le message en fait. Mais bon, Apple c'est aussi quand même, ça c'est quand même un cas particulier, hein. On est quand même sur la société qui a une qui est tellement grosse et qui a une telle image que c'est quand même eux ils peuvent est-ce qu'ils peuvent s'en passer facilement, je sais pas, hein, voilà, tout simplement, mais ils ont des moyens aussi pour produire des contenus qui ont une qualité vraiment exceptionnelle aussi.
Je peux te donner un autre exemple si tu le souhaites. Il y a une marque qui s'appelle Slush. T'as déjà entendu parler de cette marque, tu sais, je crois que c'est Slush, attends, je vais pas dire de bêtises. Il me semble que c'est des produits. Ah non, c'est pas ça. Ben je vais dire une bêtise. Donc je m'arrête là tout de suite parce que j'ai perdu ma ref. Voilà. Mais il y a récemment, il y a une marque qui est spécialisée dans les produits de santé, de bien-être bio, organique, etc. qui a annoncé en grande pompe qu'il se retirait des réseaux sociaux.
Ah oui, mais c'est Lush. C'est Lush.
Lush, pardon. Lush. Voilà. J'étais presque.
Ouais.
Et là, je trouve ça très intéressant, c'est qu'en fait, évidemment, ils ont coupé un certain nombre de plateformes sur lesquelles ils avaient la production de contenu, dans lesquelles ils animaient leur marque. Pour autant, ils ne sont pas absents des plateformes sociales, loin de là. En fait, ils ont tout réinvesti en influence marketing, en ambassadeur de marque. Et en fait, ils ont délégué la création de leur contenu de marque à des gens qui peut-être sont d'ailleurs ceux qui le font mieux que la marque. C'est les gens qui sont au cœur des plateformes et qui ont déjà une vraie légitimité là-dessus. Donc, moi, j'ai le sentiment que ne pas être sur les plateformes sociales, ça serait extrêmement préjudiciable. Par contre, il y a plein de manières d'y être. Mais c'est pas forcément en montant un compte Instagram comme tout le monde. Il y a d'autres manières d'envisager ça.
Bon, après le cas de Lush, pour moi, tu vois, c'était un coup de pub. C'est de dire, je me retire de ça, c'est un bon coup de pub. Je te dis ça parce qu'en fait, les comptes France, Canada, États-Unis, etc., eux, ils continuent à publier au moins sur Twitter.
Ouais, donc, ouais, j'ai vu ça aussi.
Ouais, c'est un peu le jeu en fait. Et puis, on l'a connu, hein, dire, ah, je me retire de Facebook. Je sais plus quelle marque avait dit, je me retire de Facebook. Ils avaient gagné des fans. Je sais plus qui avait dit, je me retire de YouTube. Et ça avait marché. Et même des grosses marques. En général, c'est toujours une grosse marque, hein, qui dit ça. Elon Musk a dit, je me retire de Twitter. Et puis, il a dit ça sur Twitter, je me retire de Twitter. Alors, je pense qu'il est toujours là d'ailleurs. Hein, j'ai pas vérifié.
Vérifié, ouais, t'as raison.
C'est toujours le truc. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Et ça avait beaucoup, moi, ça m'avait fait beaucoup rire, hein, de dire, bah, je quitte Twitter, mais en fait, il était toujours là. Et puis, il y a toujours des messages qui passaient, donc je sais pas où il en est. Mais toujours être, c'est vrai quand même que c'est compliqué, j'imagine, de prendre cette décision-là, même si, effectivement, je pense qu'il y a des entreprises, qui perdent du temps, hein, à essayer d'être absolument dessus, ou alors qui ont une image, tu sais, moi, je sais pas ce que t'en penses. Parce que vous avez sûrement des comptes en gestion, etc. J'ai l'impression de voir des opérations de community management, de social media, qui sont plus la mise en valeur de la qualité, enfin, du community manager, tu sais, qui fait ça, que de l'entreprise qui va avoir derrière. Et je pense à des comptes, je sais pas si tu les as observés, mais je pense par exemple à Interflora, qui j'avais envoyé un message il y a pas longtemps sur les trucs, où t'as l'impression que des fois c'est il y a un petit jeu entre les community managers pour dire c'est moi qui ai eu la meilleure idée. Je sais pas comment tu vois ça, toi.
Ah oui, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Effectivement, là, t'as le sentiment à un moment donné que tu te demandes où est le client. Tu te dis, mais Interflora, là, il y a personne qui regarde ce qui se passe sur vos comptes réseaux sociaux. Oui, c'est assez étonnant. Alors nous, notre métier, c'est celui de parler à la place de la marque. Hein.
Oui.
C'est pas, enfin, c'est-à-dire de parler pour la marque, pardon, pas à la place justement, parler pour la marque. Donc notre travail, c'est de suffisamment maîtriser la marque, de suffisamment connaître son ADN pour pouvoir prendre lui faire prendre parole dans sa tonalité de marque. Et c'est un vrai travail en amont où on prend un compte d'assimilation, de connaissance d'une marque pour savoir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on vous voit, est-ce qu'on tutoie, est-ce que cette expression-là, elle est cohérente avec l'ADN de marque, etc. Moi, je suis pas très à l'aise hein, quand le CM devient la vedette et que en fait la marque se fait un peu oublier. Pour moi, c'est un peut-être oublier aussi les fondamentaux et ça peut jouer des tours aussi, hein, parce que faut pas oublier. Parce que tu posais la question, est-ce qu'on peut se retirer je reviens juste à la question précédente, est-ce qu'on peut se retirer des réseaux sociaux? Alors oui, on peut, mais il faut quand même imaginer qu'aujourd'hui, le gros de ce qui a trait au SAV, aux services consommateurs, etc., se passe via les réseaux sociaux. Et bien souvent, quand le compte est trop incarné par un individu, un CM, que la tonalité elle est déviante de celle de la marque, bah, tu te retrouves avec une double tonalité de prise de parole, des bonnes blagues un peu drôles et un peu second degré, et puis parfois des vrais services clients, des vraies problématiques services clients à gérer, et là avec une tonalité beaucoup plus formelle. C'est compliqué. On a vu avec Oasis récemment qu'il y a eu ce bad buzz énorme autour de Issou. Je sais pas si tu as suivi ça, Bertrand.
Non, j'ai pas tout suivi là-dessus.
Mais c'est compliqué quand tu as une tonalité qui est dissonante. En fait, pour moi, le social media, il vient s'imbriquer dans l'intégralité d'une expérience avec le consommateur. Et ça se passe y compris en magasin. Ça se passe, c'est pareil. Si tu travestis la tonalité de marque et que tu arrives chez Interflora et que tu tapes sur l'épaule du vendeur et que tu lui fais des vannes déplacées, ton expérience, Elle est hachée, elle est pas cohérente, quoi.
Ouais. Moi, il y a des gens qui m'énervent beaucoup, c'est La Poste et SNCF. Hein. Or, je suis plus très client de la SNCF, je dois l'avouer. Puis, je serai encore pas du tout dans l'année qui vient. Mais sur La Poste, comment on fait du e-commerce avec ma femme? Ben, c'est des gens qu'on voit très souvent. Et souvent, ils ont des. J'aime pas, tu sais, quand ils se. C'est beau hein, quand c'est de l'extérieur sur les réseaux sociaux et puis quand tu vas les voir ensuite et que t'as un problème avec eux sur un truc qui arrive pas, sur des paquets qui coûtent de plus en plus cher, t'as le côté où des fois ils te répondent même plus, tu sais, c'est, tu te dis la SNCF, c'est moi je me rappelle d'avoir eu des trains qui arrivaient pas, tu sais, en retard, etc. Et ils te répondent jamais, et à côté de ça tu vois qu'ils répondent aux blagues des gens qui passent comme ça. Mmh. Et tu te dis c'est quoi votre métier réellement en fait quand vous faites ce métier là et donc c'est vrai que ce que tu dis, je pense, c'est très intéressant à garder en tête, c'est quand même, faut pas perdre de vue hein, l'objectif, hein, que bah oui, on n'est pas là juste aussi pour faire rigoler. Alors on peut faire rigoler, il y a des comptes qui arrivent très très bien, et c'est, je crois aussi, c'est ce qui fait leur croissance hein, de comptes. C'est, je dis pas qu'il faut pas rigoler non plus. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné aussi, quand on a une question sérieuse à poser, c'est au moins qu'ils y répondent et qu'il y ait une espèce de. Qu'on a l'impression qu'on parle toujours aux mêmes personnes, en fait, à la même marque.
Ouais, ça c'est vraiment un enjeu. Je pense même qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui pour les marques à faire en sorte que le lien qu'ils créent sur les réseaux sociaux, qui est quand même un endroit unique hein, pour créer ce lien-là, qui est un lien où tu te pour certaines marques, je sais pas si t'es une marque de, par exemple, de grande et moyenne surface, il y a objectivement aucun autre endroit où, hormis à l'instant de consommation du produit, hein, où tu vas pouvoir créer une proximité comme ça avec ton client. C'est unique. Donc il y a quand même un enjeu à essayer de maintenir ça, et certaines marques le font très bien. Si tu prends Michel et Augustin par exemple, la tonalité qu'ils développent sur les réseaux sociaux, elle est en cohérence avec la tonalité de ce que dit la marque sur le packaging par exemple. C'est tout à fait en cohérence, et du coup la marque, elle a une sorte de, elle est limpide. Il n'y a pas de dissonance. Et pour revenir à La Poste, il se trouve que je connais, c'est marrant que tu parles de ça, il se trouve que je connais Patrice Hilaire, qui est le big boss social media de La Poste, et je suis persuadé que pour lui, c'est aussi un enjeu que le social media nourrisse ce qui se passe dans la vraie vie en agence La Poste, et faire en sorte qu'on retrouve une cohérence de tonalité.
Ouais. Bon, après, on va pas trop taper sur La Poste parce que c'est quand même une machine qui est extrêmement lourde, hein, et grosse, hein, qui est, je sais pas comment ils ont de salariés dans leur bureau de poste, etc. Alors que derrière un compte social média, finalement, il y a pas grand monde, hein, il y a des petites équipes, pour gérer un compte au quotidien. Alors que dans des bureaux de poste, il y en a des milliers, des milliers en France, former les équipes pour avoir la même, que tout le monde parle de la même manière et se dialogue de la même manière, etc.
C'est pas simple.
C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement compliqué, par rapport à des entreprises et qui sont naissantes, ou des entreprises qui sont full web, hein, ou qui n'ont pas de magasins, qui n'ont pas de choses comme ça. Mais c'est même les entreprises, je pense, qui sortent du web et qui vont dans les boutiques. Et j'ai une expérience avec le slip français un jour, tu sais. Et j'ai été super déçu quand je suis allé en boutique, le site français. Parce que je retrouvais pas du tout l'esprit. C'était la boutique, je suis plus à Paris, tu sais. Et j'ai pas du tout retrouvé l'esprit du de ce qu'on retrouvait sur les réseaux sociaux. Et je me dis, pour eux aussi, tu vois, sortir du web, et quand tu vas dans des boutiques, etc., même ils ont une ou deux boutiques, c'est pas gros, c'est quand même aussi un autre défi. Hein. Ils ont construit quelque chose sur les réseaux sociaux. Partir sur du retail pur, c'est aussi un défi qui est pas si simple que ça à remplir, quoi.
Ouais, mais je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un défi où et c'est là aussi où tu réalises que le social media, les réseaux sociaux qui jusqu'à il y a peut-être 2-3 ans en arrière étaient un peu un truc qu'on confiait aux stagiaires, à la stagiaire, pas très sérieux, où on pouvait se permettre de faire que des blagues, etc. Eh ben, est en train se rationaliser, on va dire, et de devenir peut-être plus utilitariste. Hein, je m'excuse, le terme est un peu moche, mais en tout cas, il commence à avoir du sens dans une expérience conso, et plus que ça, même il devient central dans l'expérience client. Et du coup, c'est lui qui commence à nourrir les autres points d'interaction avec le client. Je vais te donner un exemple, nous, de ce qu'on fait ici en agence. Pour chacun de nos clients, évidemment, on gère du community management, c'est-à-dire du conversationnel, des gens qui postent des commentaires sur Facebook, sur Insta, à peu près partout. Et chaque commentaire qui rentre chez nous, qu'on traite, c'est-à-dire auquel on répond, on le qualifie, c'est-à-dire qu'on va dire de quoi ça parle. Est-ce qu'on parle d'un problème SAV? Est-ce qu'on parle d'un instant de consommation du produit? Est-ce qu'on parle de la manière dont il est consommé? C'est consommé avec des amis, avec des potes, en famille, etc., de façon toute seule. Et tout ça, on le met bout à bout, et ça nous permet trimestriellement de revenir vers nos clients en leur disant « Voilà ce qui se dit. X% des gens qui interagissent avec la marque laissent sous-entendre que la manière dont ils consomment le produit ou ce qu'ils en attendent, ou en tout cas d'apporter du qualitatif en plus du quantitatif sur une lecture de... Et en fait, ça vient nourrir le marketing. Ça vient nourrir parfois la prise des prises de décision qui sont de dire, eh ben, en fait, on va réorienter notre gamme parce que c'est pas comme ça que les gens consomment le produit. On va refaire le packaging pour que ça soit en cohérence. Donc aujourd'hui, je pense vraiment que le social, il vient nourrir le reste du marketing. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, à vivre actuellement.
D'accord. Alors, pour finir sur cette thématique-là, on va dire un petit mot quand même pour ceux qui voudraient faire carrière qui se disent, ouais, ça a l'air top, hein, de travailler dans le social media. Est-ce que d'ailleurs tu penses qu'on peut faire de la communication actuellement, sans, je dis pas maîtriser à fond ces outils, mais sans en comprendre l'ADN, hein, au moins?
Ah, je pense quand même que ça devient un impératif, hein, effectivement, de comprendre les grandes logiques. Je suis d'accord là-dessus. Ouais. Enfin, moi, j'ai cette conviction.
Ouais. Alors, les jeunes en sont convaincus, je pense. Ce qui n'arrive pas peut-être à cerner, c'est qu'en fait, le social media, c'est pas que des outils. Parce qu'on a l'impression que finalement, c'est des outils sur lesquels on appuie sur des boutons et puis ça va se faire. Et le sens un petit peu, hein, de la discussion, c'est de dire, y a des logiques qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importantes, beaucoup plus fortes. Tu dirais qu'il faut quoi comme qualité pour travailler dans ce milieu-là, en fait?
Alors, je pense que la première grosse qualité, c'est celle de l'empathie. C'est-à-dire savoir, et l'empathie, c'est complexe, hein, ça se travaille aussi, hein, c'est savoir se mettre dans la peau de l'autre. Nécessaire pour tous les types de métiers dans le social media, parce qu'il y en a beaucoup. Évidemment, quand tu es community manager et que tu réponds à des questions de gens sur les plateformes, il faut savoir se mettre dans sa peau pour lui donner une réponse qui va lui parler, en tout cas avec la bonne tonalité, que tu prennes en compte le niveau d'attention qui souhaite que tu lui accordes. Donc ça, c'est vraiment le premier truc, mais ça va aussi avoir des implications sur des métiers un tout petit peu plus stratégiques, comme celui de social media manager, où là, c'est pareil, il faut que tu penses à tes audiences, il faut que tu penses au lien entre tes audiences et ta marque, et donc que tu puisses te mettre dans la peau de tes personas. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier truc, c'est être extrêmement empathique, ceinture noire d'empathie.
Ceinture noire d'empathie. donne-nous, pour ceux qui verraient pas la différence entre le community manager et le social media manager, comment tu vois les deux postes?
Ouais, alors si vous êtes dans une toute petite structure, vous êtes toutes les casquettes à la fois et c'est canon. Vous êtes à la fois social media manager, community manager, content manager. Effectivement, il y a plein de. Après, quand on est en agence, on commence à avoir, ou quand on est dans une grosse équipe social media, on va commencer à avoir des casquettes un petit peu différentes avec des niveaux de responsabilité un peu différents. Le community manager. C'est celui qui a vraiment son métier, c'est de répondre, d'être dans l'interaction avec la communauté. Donc, sa première tâche, c'est celle d'animer cette communauté. Donc, ça passe évidemment par la gestion des commentaires, et ça peut aller un petit peu plus loin sur quand vous êtes en microstructure, évidemment, vous faites beaucoup plus que ça. Vous allez créer un calendrier éditorial, ligne éditoriale, créer des posts, etc. Mais en agence, vraiment. C'est celui de gérer de la communauté, ce qui peut impliquer parfois de créer du contenu. Content manager, là vraiment, c'est celui qui pilote le contenu, hein. C'est celui qui décide et qui est en interaction peut-être avec un graphiste, peut-être avec un vidéaste, et qui décide du calendrier éditorial. Qu'est-ce qu'on publie, à quel moment? C'est quoi la ligne éditoriale? Qu'est-ce qu'on va raconter? Et lui, il a quelque chose, une vision un tout petit peu plus stratégique et peut-être à plus longue vue, hein, sur un compte client. Et puis après, le social manager, c'est vraiment celui qui est le stratège, hein, d'une stratégie social media, celui qui met en place une stratégie. Et lui, évidemment, il va commencer à avoir une réflexion multiplateforme, Facebook, Instagram, LinkedIn, comment ça s'emboîte, quel contenu je mets dans quelle plateforme, c'est qui mes persona marketing, est-ce que là je leur parle ou là est-ce que je leur parle moyennement. Et c'est lui qui va être un peu le chef d'orchestre des, voilà, bon, c'est résumé, mais dans les faits, hein, même en agence, tout le monde fait un peu tout, hein, c'est quand même.
Ouais. Non, mais c'est ce qui est intéressant, c'est de montrer la diversité. J'ai une tendance, moi, j'ai des étudiantes à l'université qui montent jusqu'à bac plus 5, et je leur dis, visez plutôt les social media manager, content manager, etc. Parce que le community manager, quand même, on a le sentiment, c'est, attention, hein, je dis pas que c'est, je dévalorise pas le métier, mais j'ai l'impression quand même qu'on va aller de plus en plus vers du centre d'appel, tu vois, de la réponse des fois qui est un peu toute faite sur des choses, et que on pourrait presque, alors je dis pas qu'on peut l'automatiser, mais on peut la scripter plus facilement, tu vois. Et pour des étudiants, des fois, qui imaginent leur carrière, je trouve que quand on monte un petit peu dans la stratégie, etc., ça devient quand même beaucoup plus intéressant.
Oui, bah c'est certain. En général, ce qui se passe quand on est en agence, on commence par community manager, puis après on gravit les échelons avec l'expérience qu'on a. Quand on est chez l'annonceur, donc directement chez une marque ou chez une entreprise, là c'est un petit peu différent, et bien souvent on va attaquer avec des postes un peu plus mixtes où on va avoir plusieurs casquettes et on va non seulement gérer du commentaire et puis se poser des questions de stratégie, etc. Faire un petit peu plus de tout, quoi.
Est-ce que tu vois des profils types, ou est-ce que tu vois que les profils finalement sont beaucoup plus mixtes que ce qu'on pourrait penser? Je viens par là pour dire que on a des entreprises, et moi je les croise encore, qui disent oh, les réseaux sociaux c'est un truc des petits jeunes, tu vois. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu vois que ça a quand même évolué dans la tête des gens?
Eh ben déjà, moi, je suis loin d'être un petit jeune, hein, pour commencer. Moi, juste là-dessus, j'ai bientôt 40 piges, donc je me considère pas vraiment comme un jeune. Et puis, mon équipe ici, Adjane, Camille, ont 30 ans passés. Donc, moi, je crois que l'âge a pas forcément d'impact à proprement parler. Je pense qu'il y a des gens qui sont déconnectés totalement. Ils ont peut-être raté une marche ou deux, et aujourd'hui ils sont en stress à l'idée de rattraper le train. Il n'est pas compliqué à rattraper, hein, les amis, hein. Si vous êtes à la bourre, ça peut encore se rattraper sans trop de problèmes. Il faut juste à un moment donné plonger dedans. Moi je crois qu'aujourd'hui les profils recherchés, que ça soit en agence ou chez l'annonceur, c'est pas forcément des gens qui savent tout faire. Enfin, en tout cas, moi c'est pas ma recherche. C'est pas des gens qui ont une grosse technicité, parce qu'en vrai, ce métier-là il bouge tellement vite que ce que tu sais aujourd'hui techniquement, si moi je fais un break de 6 mois, je pense que je reviens dans 6 mois, je suis quasiment largué sur l'aspect technique. Par contre, ce qu'on veut, c'est des gens qui ont la vue d'ensemble et qui sont en capacité de comprendre l'impact que peut avoir ce canal qui est le social media au milieu des autres canaux et comment ça s'imbrique au milieu. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, je pense.
Oui. Alors d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je disais souvent à des entreprises que le community management, ça s'apprend. Hein, sincèrement, manipuler les outils, les plateformes, etc., c'est des choses qui s'apprennent assez facilement, d'ailleurs, hein, pour ceux qui ont un peu peur, mais c'est pas trop le cas de l'audience, mais on peut dire que ça s'apprend relativement facilement et assez rapidement. En revanche, il y a des trucs qui s'apprennent pas. Et tu l'as dit, hein, sur l'empathie, c'est quelque chose qui, ça s'apprend, mais ça se développe, mais ça met du temps à se développer parce que il y a des gens qui en manquent assez naturellement, puis il y a des gens qui sont dotés de ça plus naturellement. Et puis il y a des choses, t'as parlé de stratégie, etc., que l'on n'a pas forcément quand on arrive dans une entreprise et qui souvent sont plutôt les couches, j'ai envie de dire, les plus élevées du management qui les ont, hein, quand on parle de stratégie, quels produits vont être lancés, etc. Ces postes-là, pour moi, elles sont quand même très très proches de la direction, hein, surtout dans les petites structures. On est quand même sur des gens qui doivent savoir où va l'entreprise, non pas juste à la semaine ou au mois, mais vraiment sur du long terme.
Ouais, tout à fait, qui sont capables aussi non seulement d'avoir cette vue business et puis aussi une vue plus marketing, c'est-à-dire se dire ben c'est quoi l'ADN de ma marque, c'est quoi l'ADN de mon entreprise, qu'est-ce que je défends comme valeur, et qui sont capables de retransmettre ça sur les réseaux sociaux. Et là, c'est des choses où je pense que l'expertise technique ne rentre pas en ligne de compte. C'est plutôt du soit potentiellement t'as déjà eu une expérience dans le marketing, la communication. Nous, chez nos clients, bien souvent, c'est des gens qu'on va trouver aujourd'hui en situation d'être social media manager, par exemple, chez le client. Hein. Ils sont passés par d'autres sujets, marketing, et puis à un moment donné, ils font ça. Ils n'ont pas forcément une grosse expertise technique, mais ils vont avoir des partenaires qui vont leur apporter ce sujet-là.
Voilà. Bon, ben, ça fait ça. Je pense que il y a certaines personnes, c'est qui peuvent se sentir bloquées, qui ont une expérience marketing, etc. Et je pense que ça peut aussi être intéressant pour eux d'évoluer vers ces métiers-là. Et ce que je trouvais intéressant, c'est de dire que la technique, finalement, c'est pas le plus important. Et je crois que c'est de moins en moins important. Par contre, faut comprendre les rouages. Hein, c'est-à-dire que les rouages de la discussion, de l'engagement, des algorithmes, à quoi ça sert, etc. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Les notions aussi. Hein, je crois, par exemple, sur l'importance par exemple des formats entre du vertical, de l'horizontal, ce que ça implique, etc. Je pense qu'il faut avoir une culture, hein. Je sais pas si c'est le terme le plus approprié, mais moi je parle souvent de culture, de comprendre vraiment comment ça bouge.
Oui, tout à fait. Mais tu vois, c'est comme quand pour rapporter à d'autres métiers, t'as des mecs qui vont être chefs de projet digital et qui sont pas forcément des codeurs, et par contre qui sont en capacité de piloter un projet digital. Bah, je pense qu'en social media, tu as aussi des métiers comme ça qui sont pas forcément des métiers de content creator. Et en général, la perception que vont avoir certains profils un tout petit peu largués sur ces sujets, c'est qu'on va se dire « Oh là là, mais moi je sais pas faire une story, oh là là, je sais pas comment on fait une vidéo où on se filme à la première personne, j'ai pas le matos, je sais pas faire ». Ça, c'est un autre métier, c'est celui de content creator. Parfois, tu peux être community manager et content creator, social media manager et content creator, mais c'est pas le même métier.
Voilà. Alors, ce qui est difficile, bien effectivement, c'est que ceux qui sont dans les toutes petites structures, eux, ils font tous les métiers.
Et oui, tout à fait. Et c'est bien, ils apprennent plein de trucs, c'est génial. Non, je trouve que c'est une expérience folle parce que si tu arrives à créer la confiance avec tes patrons, tu peux vraiment arriver à être très très proche des prises de décision stratégiques et en même temps t'éclater en faisant plein de choses et parfois des choses très créatives, très terre à terre. C'est génial.
Ouais, effectivement. Dans les toutes petites structures, hein, il y a des structures, hein, dans lesquelles, à même avoir des budgets pour le faire. Moi, j'ai vu des structures qui n'ont pas beaucoup de budget. J'ai vu des structures aussi où ça revenait un petit peu à ce que je disais, hein, où le patron finalement est le social media manager, ou on peut l'appeler comment, ou des fois même le content, tu vois. Enfin, j'ai vu des patrons qui m'appelaient me dire, moi, je vais faire de la vidéo pour incarner mon entreprise, parce que c'est un élément qui est important quand même. C'est comment est-ce que on incarne l'entreprise. Tu vois, quand tu fais du texte ou des choses comme ça, c'est facile. Mais quand on doit mettre des gens pour parler, pour échanger, par exemple, du live, je sais pas si vous faites du live avec vos clients.
Ouais, ça nous arrive, ouais.
Mais à un moment donné, la personne qui doit prendre la parole pour une entreprise, si par exemple, je suis dans une grande entreprise qui ferait du chocolat, par exemple, et que je suis un responsable marketing, est-ce que je suis la bonne personne pour parler? Comment? Qui va parler, etc.? C'est pas si évident que ça, quand même, hein.
Ouais, bah là c'est vrai que quand t'es une agence, il faut que tu fasses un petit peu l'état des lieux des forces en présence, on va dire, et tu te dises tiens, là j'ai un super profil, on peut le mettre à profit. Et puis parfois, il faut trouver des subterfuges parce que tu vas pas avoir la bonne personne à disposition. Donc soit peux faire rentrer dans la boucle quelqu'un d'autre. Hein. Tu peux avoir quelqu'un qui vient incarner ponctuellement la marque, hein, sur une web série. Tu vas faire venir un personnage, par exemple, c'est des choses envisageables. Ou lui faire faire prendre la parole peut-être sur d'autres biais. Tu vois, on parle de podcast, nous deux on est podcasteurs, on kiffe ce format. Parfois le format c'est pas toujours celui de la vidéo. Ça peut être d'autres, et il y a des formats sur lesquels nos interlocuteurs sont parfois plus à l'aise que d'autres.
Oui. Alors je renvoie d'ailleurs, vous avez fait un épisode très intéressant sur le podcast, notamment sur les marques de luxe en podcast. Hein. Vous pouvez parler de certains exemples dans le luxe, hein. Hermès, hein, il me semble. Oui. Des gens comme ça, c'est vraiment intéressant. Hein. Il y a des cas où ça montre d'ailleurs qu'ils sont capables de faire parler des personnes qui sont des salariés des boutiques, des choses comme ça. Hein. C'est vraiment un format très différent.
Ouais, tout à fait. Et là-dessus aussi, on constate, hein, pour ce qui est des marques de luxe spécifiquement, et ça, je trouve que c'est un bon moyen aussi de décomplexer d'autres acteurs, hein, sur d'autres marchés, c'est de dire même les marques de luxe ont compris que cette authenticité, cette proximité avec leurs clients, elle les obligeait pas à jouer faux, quoi. C'est ce que les gens attendaient, et qu'en même temps, je pouvais rester vrai, je pouvais rester Hermès, une marque de luxe extraordinaire, avec une histoire folle, tout en faisant parler des gens qui sont pas des stars devant la caméra. Parce que je suis dans l'authenticité, dans le vrai, avec des gens qui ont de l'expertise et qui viennent le transmettre simplement. Et ça, je trouve que ça doit pouvoir décomplexer aujourd'hui bien des petites PME à l'idée de prendre la parole.
Oui, et c'est toujours intéressant de regarder ce que fait Luxe, parce qu'ils sont souvent très en avance, hein, quand on regarde un petit peu les choses. Ou alors, il y a des choses qui sont, puisque le Luxe le fait, on va dire, bah, nous, on peut le faire aussi. Et l'exemple que tu donnes est intéressant. Moi, c'est toujours une analogie que je prends, c'est sur l'automobile. Je suis pas un féru de voiture, mais quand je dis le jour où les grandes marques de luxe automobile et de sport passent aux boîtes automatiques, tout d'un coup, les gens se disent, ah, mais finalement, c'est vachement bien l'automatique. Alors que si c'était une petite marque qui met ça sur ses petites voitures, on aurait dit l'automatique, c'est pas terrible. Et en fin de compte, le fait que le luxe se dise, bah oui, regardez, on est capable de mettre de l'automatique, nous, sur les boîtes de vitesse. Et ben, d'un coup, les gens disent, ah oui, c'est une opportunité, c'est quelque chose qui est possible. Et je crois qu'effectivement, quand tu dis une marque peut faire du podcast, etc. Moi j'avais vu Hermès qui s'amusait à faire du finger skate à une époque.
Ouais, voilà, bah, par exemple.
tu te dis, bon bah attends, si eux ils ont osé faire ça, une plus petite marque peut aussi prendre, je crois que c'est un risque qui est très très limité quand même, de s'amuser. D'ailleurs, tiens, tant qu'on est sur le risque, comment on limite le risque si je suis une petite entreprise et que j'ai un peu peur? Tu vois, je suis un peu frileux, parce que souvent des entreprises qui sont, moi j'ai eu souvent des cas qui me disent, oui mais on va se prendre des mauvais commentaires par exemple. Comment est-ce que quelque part on peut les, allez dire, les rassurer quand s'ils nous écoutent là tout de suite?
Mais c'est tout à fait lucide. La première chose, c'est qu'en général, et c'est d'ailleurs le plus gros frein, hein, en général, sur de la création de contenu, c'est de se dire, oh là là, je vais faire un truc pourri, les gens vont pas aimer, donc je préfère pas le faire. Ou alors, attends, faut que je sois sûr de ce que... C'est un truc dont tu parles très bien dans votre coach web, le podcast, c'est ça, c'est ce blocage que tu peux avoir à la création de contenu. Moi, j'ai le sentiment, j'aime bien ce que dit, je vais sortir le gros gourou, là, attention, hein, Gary Vaynerchuk, quand il dit, il faut arrêter de communiquer, il faut documenter. Mmh. En fait, ça, j'adore cette idée, parce que justement, elle laisse sous-entendre que, quand tu communiques, ben tu dois te poser plein de questions sur le détail, le côté papier glacé de tes productions, de ce que tu vas faire en vidéo, de ce que tu vas faire en podcast. Quand tu documentes, c'est pas vrai, juste tu te montres dans ta vraie vie et tu te documentes. Il y a plein de manières différentes de le faire. Donc je pense qu'il faut peut-être juste arrêter de regarder exactement ce que font les autres, etc. Et se dire juste comment je peux raconter mon truc simplement. Et si je suis authentique, il y a quand même peu de chances que je me prenne une boîte. C'est quand je sonne faux que je risque d'en prendre une.
Oui, c'est ça. Et la documentation passe par plein de trucs, hein, pour les entreprises, les petites entreprises notamment. Moi, je dis souvent, et je l'ai donné le conseil il n'y a pas si longtemps que ça, une entreprise, en lui disant, mais on aurait juste envie, t'as une petite usine qui fabrique des produits pour toi, pourquoi tu vas pas filmer juste un bout de truc, quoi. Parce que finalement, ils me disent, oui, ça intéresse personne. Bah, au contraire, je crois au contraire que dans la discussion, ça va nourrir la discussion. Alors après, on a des sujets un petit peu touchy, tu vois. Moi, j'ai un client, par exemple, qui est dans la viande, donc il y a un abattoir. c'est pas si simple que ça. Voilà, on rentre dans des thématiques qui sont un petit peu compliquées, mais qui viennent de l'air du temps, hein, tout simplement. Hein. C'est pas de leur fait à eux, c'est de l'air du temps qui est comme ça. Et sur lequel les prises de parole sont des fois un poil plus compliquées. Mais je crois qu'il y a plein de sujets sur lesquels les prises de parole peuvent être plus simples que ça, hein, tout simplement, parce que les gens ont aussi envie de savoir ce qui se passe derrière, hein, et c'est toujours intéressant. Bon, je crois que on a fait un bon petit tour, hein. Je sais pas si tu voyais quelque chose à rajouter.
Oh là là, on pourrait en parler pendant des. Non, c'était top, super conversation. Je te remercie beaucoup. On pourrait en parler pendant des jours et des jours, je pense.
Oui, alors en plus c'est quelque chose qui ne cesse d'évoluer. On l'a dit, hein, dans une qualité pour ceux qui veulent travailler dans ce domaine-là, c'est de faire de la veille. c'est obligatoire. Mais en fait, c'est votre boulot de surveiller tout ce qui se passe, hein. Donc ça de trouver des moyens en tout cas de faire de la veille, et le podcast du Super Daily, je crois, il trouve, et c'est un super bon moyen de faire de la veille sur le sujet. Si vous n'avez pas envie de lire toutes les publications à droite à gauche qui passent, etc., 20 minutes ou 30 minutes en allant faire votre jogging le matin, ou en courant sur un tapis, ou en voiture, ou dans le métro, ou je ne sais où, je trouve qu'on fait un très très bon tour, hein. On a plein de choses. En plus, vous êtes diffusé à partir de 9h, hein, t'as dit, vous enregistrez.
On enregistre à 9h, donc sur le coup des 10h, on est en ligne à peu près, mais il y en a tous les jours. Donc c'est vrai que si tu fais ta vaisselle le soir, tu peux, et au petit déj pour ton footing, tu as celui de la veille. Donc
ouais, et moi j'en ai écouté 3 ce week-end. J'avais loupé votre série de l'été, puis alors ce qui se passe, et je le dis, hein, c'est que je regarde les titres des épisodes et puis je me dis, ah, oh, celui-là il me plaît, tiens, je vais me laisser tenter, etc.
Mais t'as raison, c'est très bien, Bertrand, tu pioches, et nous ça nous va, en fait. On sait très bien que embarquer des gens, il y en a, hein, et on les remercie, hein, qui nous écoutent tous les jours, ce qui est énorme quand on y pense. Mais venez nous écouter, venez piocher ce qui vous intéresse, et parfois t'es pas intéressé par tout, c'est bien normal.
Mais c'est énorme, et j'ai plusieurs personnes déjà qui m'ont dit qu'ils m'avaient pris en cours de route et qui avaient écouté des fois les. Alors maintenant c'est 400 et quelques épisodes, hein, qui avaient écouté 200 épisodes presque d'affilée.
Wow.
Ouais, non, mais je suis sûr que certains le font avec vous. rappelle-moi combien d'épisodes vous avez fait.
Je crois qu'on est 240, quelque chose comme ça à peu près.
240, oui. C'est la magie du quotidien, c'est que les chiffres augmentent extrêmement vite.
Ça va très très vite, et hormis les chiffres qui augmentent, c'est vrai que t'as l'occasion aussi de dire beaucoup de choses, de parler de plein de sujets. Ça, c'est vrai que c'est une grosse richesse. Souvent on nous pose la question, je pense à toi d'ailleurs, on te fait la même, c'est mais t'arrives à trouver un sujet tous les jours? Et ben nous, en fait, on en a des tonnes en stock sur notre Trello, comme je disais tout à l'heure, et qu'on attend juste le bon moment pour les sortir. Mais on a plein de choses à raconter, ouais.
Allez, pour finir, alors on a parlé de l'outil sur lequel vous hébergez le podcast, donc c'est Simplecast. Un outil pour toi qui te semble indispensable dans votre métier pour gérer les réseaux sociaux et vraiment qui vous fait vraiment gagner du temps.
Alors, je pense qu'il faut un moment donné, il faut se professionnaliser et avoir des outils de gestion des réseaux sociaux. C'est comme ça. Il y a des outils tierces qui permettent de faire des choses que les plateformes ne peuvent pas faire nativement. Il y en a plein, il y en a des très connus, hein, comme Hootsuite, je pense qu'à peu près tout le monde connaît. Il y a Buffer, et puis il y a AgoraPulse que nous on utilise. Alors encore une fois, c'est pas un outil qu'on utilise et qu'on recommande plus qu'un autre. Même si on l'utilise, du coup on l'aime bien, on en a benchmarké un certain nombre, il nous va bien. Il va pas forcément à tout le monde, mais en tout cas un outil comme ça qui permet de centraliser ces différents comptes réseaux sociaux en une même plateforme, idem pour les commentaires, de planifier ses publications. À un moment donné, si on veut être sérieux dans ses affaires, c'est ce qu'il faut faire.
Voilà. Alors un outil, je le cache pas, parce que comme vous publiez ça sur les réseaux sociaux de partout, il me semble, hein, je vous ai demandé si vous utilisez Headliner, hein, pour publier tous les contenus à droite à gauche sur les réseaux sociaux.
Ouais, alors Headliner, effectivement, est dans notre toolbox, super outil, qui est passé en payant maintenant, malheureusement, mais en même temps, vu que l'outil est très bien, c'est normal qu'ils gagnent leur vie. Donc ça, Headliner, ça permet de faire effectivement des audiogrammes, ces petites courbes de son qu'on va voir, où on va prendre un extrait d'une minute et on va faire une petite courbe de son dessus. Super outil, il y a plein de choses à faire dessus, il fait aussi de la retranscription texte. Sur la base d'audio, donc ça c'est vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre très rapidement dans ma toolbox? Allez, un petit dernier sur la veille, puisqu'on parlait de veille. Nous on utilise Feedly, que j'adore. Feedly, super outil pour gérer des flux RSS, gérer sa veille, classer par dossier, faire des annotations. Voilà, moi c'est mon outil de veille.
Tiens, allez, et je te pose une colle, parce que peut-être que t'as pas l'outil magique. Est-ce que t'auras un outil pour trouver des hashtags pertinents sur les réseaux sociaux?
Alors, tu sais que c'est marrant parce que aujourd'hui j'ai bookmarké un truc sur Facebook. Je suis tombé là-dessus. Si tu me laisses deux secondes, je vais le retrouver. Je vais pouvoir te répondre. Mais aujourd'hui, en termes d'outils, on utilise un truc qui s'appelle l'e-tag. Mais je suis pas ultra satisfait par cet outil. Je le trouve un peu moyen. Il est surtout rattaché à Instagram, pardon. Et du coup, eh ben, je l'ai pas. J'arrive plus à te retrouver. Ce que je vais faire, c'est que je vais te l'envoyer. Tu pourras le mettre en note d'épisode.
Ouais, en note de l'épisode.
Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, c'est très bien. Chacun cherche les outils. Moi, je le dis, je vous mettrai aussi en note de l'épisode. Je suis en train de tester un outil qui s'appelle FlickTech, Flick.tech. Je suis pas certain d'être très convaincu par l'outil, mais je vous mettrai un lien parce que en fait, en cliquant sur le lien, vous avez un mois de test, donc gratos. Donc vous verrez ce que ça fait. En fait, ils m'ont séduit, tu sais, par le discours, en fait, en disant on a l'outil qui va te permettre de trouver tous les hashtags, etc. Et je sais pas si cet outil-là existe. Sincèrement, je sais pas si vraiment il y a un outil qui existe pour trouver les hashtags. Je sais pas combien vous en avez testé de votre côté, mais
on a cherché pas mal, et c'est vrai que on en a un, mais comme je te disais, je suis pas ultra fan, quoi. Donc je veux bien ton tips là, ça m'intéresse.
Voilà. Donc voilà, on a une trousse à outils qui est un petit peu remplie. On a eu plein de conseils à la fois pour ceux qui ont la problématique entreprise et pour ceux qui voudraient travailler dans ce domaine-là, parce que ils sont nombreux. Je sais que certains d'entre vous veulent aussi faire des reconversions, ou il y a des étudiants aussi, parce que je dis que je suis écouté par des vieux, mais non, il y a des jeunes aussi qui écoutent. Certains sont des étudiants, etc. Donc ils se demandent, ils se disent, mais comment on va se faire embaucher? Comment est-ce qu'on pourrait se faire embaucher chez les super natifs d'ailleurs? Parce que vous embauchez régulièrement, j'imagine.
Ouais. Tiens, je lâche un email. job@supernatif.com. Voilà, si vous voulez nous envoyer votre candidature, on est preneur.
Voilà, et puis tu sauras que s'ils ont cette adresse mail, c'est qu'ils ont écouté jusqu'au bout. Ce sont des gens passionnés par le sujet.
Exactement.
Voilà, c'est une manière de traquer aussi. un petit peu, vous envoyez, vous dites, c'est Bertrand qui, j'ai écouté l'épisode de votre coach web, et on saura vraiment d'où vous venez. Voilà.
Voilà, je viens de la part de Bertrand, vous avez quitté.
Non. je ne recommande que des gens que je connais vraiment. Et attends. Mais vous pouvez dire que vous avez écouté votre coach web, et on sait d'où vous viendrez. Voilà, je te remercie Thibaut pour tous ces conseils, c'est un épisode très très riche, qui permet aussi d'avoir une vision, je trouve, intéressante, parce que, moi, j'ai la vision entrepreneur, mais seul, un petit peu dans mon coin, avec toutes les casquettes, création de contenu, etc. J'accompagne des entreprises qui sont pas très grosses aussi, qui ont ces problématiques-là. Et avoir une vision d'une entreprise qui est un peu plus grosse, on n'a pas dit vos clients, mais j'imagine qu'on les trouvera sur votre site. Ça donne aussi un petit peu la vision des enjeux qui se jouent pour des entreprises plus grosses, de vers où on va aussi. Vous remarquerez qu'on n'a pas du tout parlé des outils, ou quasiment très peu. On n'a pas parlé de sur quels sont les outils qui vont venir, qui vont arriver. Est-ce qu'il faut absolument être sur TikTok, par exemple? Est-ce qu'il faut être sur TikTok?
C'est pareil, faut que ça soit en cohérence avec qui tu es et ce que t'as raconté. Il y a des trucs cool, TikTok c'est bluffant, Moi j'adore, j'y suis pas, tu vois, et l'agence non plus, et aucun de nos clients. Par contre, j'y vais avec plaisir parce que je trouve que c'est là qu'on trouve les créateurs de contenu de demain. C'est génial ce qu'ils font.
Ouais, et comme je disais la semaine dernière, le PSG a annoncé un de ses transferts sur TikTok.
Tout à fait.
Ouais. Ouverture de compte avec un nouveau transfert, alors qu'il est pas le joueur, c'est pas que aussi annoncer la venue d'un très gros, très très gros joueur, mais quand même qui est un joueur qui leur a coûté un peu d'argent. Ce qui montre quand même que par rapport à une audience qu'ils ont, et qui est forcément assez jeune aussi, ils n'ont pas que des... Il y a forcément une audience jeune, ils ont aussi trouvé peut-être dans TikTok un relais qui est intéressant. Et tout à l'heure, tu parlais de Gary Vaynerchuk. J'ai regardé le compte de Gary Vaynerchuk sur TikTok.
Et
il avait...
J'ai pas vu.
Et voilà. Il avait un petit peu abandonné, j'ai trouvé, ces derniers temps. Il avait fait des gros cartons en faisant une chanson en dansant, etc. Mais vraiment sur l'air, tu sais, c'était des trucs qui étaient très drôles au départ.
Ouais.
Et là, j'ai trouvé, quand j'ai regardé son compte, qu'il était revenu sur des contenus qui ressemblent beaucoup plus maintenant à ce qu'on trouve sur Instagram, etc. Ce qui montre aussi, je pense, un vieillissement et une...
En train de se transformer,
voilà,
TikTok,
une transformation, ouais. Quelque chose qui était très créatif, très musical, etc. Et là-dessus, ils ont des outils qui sont très performants pour faire des montages. Moi, j'hallucine quand je vois certaines qui sont recommandées, les fonds changent, ils font vraiment des trucs qui sont impressionnants. Mais, tu vois, Gary Vaynerchuk, quand j'ai regardé son compte, j'ai dit, ça ressemble quand même à ce qu'il fait sur YouTube, sur Instagram, et il a quand même des centaines de millions de vues, centaines de milliers de vues, c'est pas encore des millions chez lui, vu la taille de TikTok, mais ça montre quand même que c'est un réseau qui va peut-être aussi évoluer vers un autre fonctionnement. Et c'est aussi un petit peu la leçon de tout ça, hein, c'est que les outils, on pourrait vous en parler aujourd'hui, vous dire faut utiliser tel outil pour ça ou ça, mais en fin de compte, à peine on aurait terminé d'enregistrer que déjà ça serait sur le point de changer. Et ouais. Donc c'est pour ça que c'était intéressant aussi de voir un petit peu stratégiquement comment ça se passait, et c'est pour ça que j'étais très content de te recevoir. Et puis c'était aussi très intéressant de voir que le podcast, on peut aussi en faire en quotidien, même quand on a à côté un boulot avec des clients, qu'on a d'autres choses à faire, mais que ça rentre dans une stratégie d'agence, une stratégie de médias pour une agence ou pour une entreprise, hein, qui pourrait être une autre entreprise, alors peut-être pas en quotidien, hein, je sais pas si vous avez déjà recommandé du podcast à des entreprises et des clients.
Oui. Écoute, figure-toi que oui, tu sais, nous, on est des concepteurs, un truc qu'on se dit, vas-y, on le propose, si ça marche, allons-y. On a itéré sur nous, on essaye sur d'autres.
Voilà.
Donc oui, on produit aujourd'hui du podcast pour des clients. Ouais.
Et donc voilà, donc c'est possible, hein, etc. Alors peut-être qu'ils le font pas eux en quotidien, ils ont peut-être des rythmes un petit peu différents, mais c'est un format qui vaut le coup, et du moment que on a la réflexion pour l'amener avec les cibles de ses clients, forcément. Merci encore à toi Thibaut.
Grand merci Bertrand, merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'était un moment très sympa, et puis échanger avec toi au lieu de en direct et ne pas t'avoir exclusivement dans mes écouteurs quand je vais au bureau le matin, c'est assez sympa aussi.
Voilà.
C'était un plaisir, merci à toi.
Et merci à vous pour l'émission. On va rappeler juste où on peut vous écouter.
À peu près partout. Le Super Daily, on est sur lesuperdaily.com pour ceux qui sont pas très à l'aise avec les plateformes de podcast. Et sinon, effectivement, on est sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, sur Deezer, le Super Daily.
Et je crois par contre que si on veut vous suivre sur Instagram, c'est super natif, hein, c'est l'agence. Hein.
Effectivement. Sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, à peu près partout, super natif, SUPERNATIFS.
Voilà, et maintenant on sait où vous écouter, on sait où vous suivre, hein, et puis on aura vos petites on peut avoir des extraits du podcast, on peut avoir des photos, des fois on vous voit en photo, etc. On voit plein de petites informations comme ça. Je te remercie encore pour ta participation, et les auditeurs, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode dont un sujet dont je ne sais pas de quoi nous parlerons, parce que c'est ça la magie aussi d'être en quotidien, etc. C'est des fois on improvise un petit peu au tout dernier moment, mais en tout cas on se retrouvera bien la semaine prochaine. Merci, belle semaine à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Au revoir tout le monde.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.